Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré. Il est mercredi, il est presque 19h, presque, n'est-ce pas? Je suis particulièrement heureux de cette émission, on a un programme vraiment très chargé et surtout, on a un invité exceptionnel, à savoir, vous l'avez reconnu, Amixem.
Bonjour. Voilà, ça fait un quart d'heure qu'on parle,
ouais. Oui, c'est vrai. On se découvre. Ça va, Benjamin?
Ça va très bien. Ravi d'être de retour entre les murs bleus.
Mais tu deviens un habitué de cette émission.
Avec grand plaisir. Si je peux être là tous les jours, je serai là tous les jours.
Bah, on va en discuter. Comment va le papa du YouTube Game?
Bah, de mieux en mieux.
Les nuits?
Ouais, non. Non, c'est encore tabou. Clairement. Mais, ça connaît mon deuxième, ouais, vraiment, ouais. Je découvre la vie, en vrai. Tu sais, les gens, ils croient que quand t'as un enfant, t'as passé le cap. Pas du tout, du tout. C'est le deuxième où tu découvres la vie. La vraie vie.
La gestion.
Ouais, je te jure, c'est ouf. Mais, ouais, non, fatigue bien présente. Et puis, là, j'ai dormi la nuit dernière dans une maison qu'on a construite sur l'eau, tu vois. C'était le tournage sur 2 jours. Donc, j'ai dormi 5 heures, ouais. Ce qui est en fait mon rythme de...
Mais d'habitude, en fait.
Ouais, j'ai rien changé, finalement. Pourquoi je me plains?
Petite anecdote à ce niveau-là, j'ai entendu dire récemment par des parents, des nouveaux parents, qu'apparemment, après que tu aies eu un gosse...
Tu fais partie du club des parents, tu me demandes, je suis ambassadeur, ok, vas-y.
Je te mets dedans. Ouais, vas-y. Apparemment, tu mets 7 ans. Ouais. Pour reprendre ton rythme de dodo normal, en fait.
Ça me fait peur, ça. Vraiment, pour moi, je vois ma barre de mana, en fait, d'adolescent, tu sais, quand tu te réveilles à midi et tout, là. Et genre, je sens qu'elle est grattée, tu vois, de jour en jour. Et je sais pas trop ce qu'il en reste, parce qu'elle s'affiche pas tous les jours. Mais ça me fait peur. Je me dis, qu'est-ce qui va en rester, tu vois.
Petit coup stress. T'as quand même trouvé l'énergie de venir jusqu'à nous.
Ouais.
Jusqu'à Paris. Donc, ça fait plaisir.
Merci. Ça va.
Tu régales. Et puis voilà, je vous ai dit, on a un programme vraiment bien chargé. On va avoir une première partie très très cool où on aura un journaliste du Monde, Martin Untersinger, que vous connaissez puisqu'il est déjà vu dans l'émission. Il va nous parler de trucs passionnants, très sérieux. Ça va commencer de façon très sérieuse, je vous préviens, cette émission. Carrément. On va parler cyberguerre, etc. Et après, on aura des trucs bien bien cool, des petits jeux qu'on a organisés tous ensemble. Benjamin, j'ai juste un petit doute parce qu'on vous parlait de localisation, etc. Je suis perdu sur ta géolocalisation. À chaque fois que tu viens, tu as changé de ville.
J'ai brouillé les pistes. J'ai beaucoup brouillé les pistes. C'est censé être à Berlin, mais en fait, il s'est passé que Omicron est arrivé super vite à Berlin. Et quand tout ferme, à Berlin, il te reste qu'une ville dans laquelle il fait nuit à 15h.
Okay.
Et en fait, moi, dans cette ville-là, le premier mois, à cause du fait qu'il fasse nuit à 15h, à 3h du matin, je me réveillais en mode c'est bon, j'ai vu assez de nuit là, c'est bon, c'est le jour est de retour. En fait non, il restait encore 5 ou 6 heures de nuit qui arrivaient. Donc en fait ça m'a pesé énormément, ouais. Et comme tout était fermé, j'ai dit à ma meuf, viens, on se casse, on se retourne à Malaga chez moi là, où on est quand même beaucoup mieux. Et du coup, là, on est passé de nuit à 15h à nuit à 19h à peu près, et puis avec des températures un peu plus avantageuses. Donc oui, j'ai passé les 3 derniers mois à Malaga et c'était pas mal cool. Et là, je suis de retour à Paris.
Aha.
Ville où il fait nuit à 16h50, c'est pas non plus...
C'est... Mais après, c'est 16h50, tu peux aller sur Underscore.
Ok.
Et ça, c'est pas mal.
Dès la tombée de la nuit, on se retrouve sur Underscore.
On a eu des raids groupés de Hard Disk et de Bastille UI. À un moment, j'ai vu le chat, tout le monde parlait d'un rachat de Apple par William Sorin. Ils aiment bien arriver avec des infox, en fait.
Ok, ouais.
Peut-être qu'un jour, je vais me faire avoir... Je vais regarder le chat en mode oh, what the fuck, les gars.
Ouais. Il va se passer un truc vrai comme ça.
Et là, ma crédibilité sera sacrifiée, quoi. À tout jamais.
Je suis vraiment en train de penser à la fusion des deux entreprises là dans ma tête.
Peut-être marrant.
Ouais. Je pense que du coup, le logo va tourner plus en saucisson ou en pomme.
Est-ce qu'on peut parler de ça pendant les prochaines heures? Parce que j'adore.
Ok, on change le programme.
T'as dit que le programme était chargé, mais ça a l'air foutrement plus important. Mieux.
J'arrive pas à faire un jeu de mots avec les MacBook et le cassoulet. J'arrive pas. Putain, ça me saoule. Allez. Mac pour aller, vas-y, on ferme notre gueule.
J'arrive avec une petite actualité, mm-hmm. Une vraie cette fois. Mm-hmm. Hier, vous avez peut-être eu des petits soucis, non, de réseau. Alors toi, t'étais sur une maison.
Ouais, alors moi, oui, j'avais des soucis de réseau, mais pour d'autres raisons.
Voilà. Mais peut-être que t'as eu des soucis de réseau.
Moi, j'étais sous la douche avec mon casque là, comme ça.
Ouais, et ça s'arrête?
Et ça s'est arrêté.
Et voilà. Et je vais t'expliquer pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Puisque Discord, Spotify, TikTok étaient down.
Ok.
Tous en...
Oui, j'ai en lu ça, temps. Mais moi, je n'ai pas eu de soucis.
Il y a même C8 et TPMP qui ont été touchés.
Zut.
Terrible.
Ok.
Et bah, tout le monde a crié à la cyberattaque russe.
Bah ouais,
tu penses bien, ils arrivent. C'est possible, mais a priori, vraiment pas du tout.
D'accord.
C'est juste beaucoup plus ennuyeux. Finalement, c'est une panne du côté de Google Cloud Platform.
Ok.
Qui est, comme vous le savez peut-être, un hébergeur de cloud comme okay. Azure, AWS, etc. Qui est utilisé un peu partout, notamment Discord, Spotify et tout. Ils sont tous voilà chez eux.
C'est fou quand même ces entreprises de fous malades.
Mais oui.
Qui sont chez Google Cloud Platform. Genre la formule à 12 euros quoi.
Ben je pense
ça
que
ça sonne un peu ça quoi.
Ouais, à mon ils sont dans des tiers
ouais,
genre entreprises.
C'est ce que tu veux dire.
mais ça c'est quand même dingue de se dire que tu peux avoir genre 5 services gigantesques qui
de
sont
ouf.
Tous par terre.
Et on sait ce qui s'est passé chez Google Cloud Platform parce qu'en général c'est quand même ils ont de la redondance, c'est hyper
oui, normalement
bourrin quoi.
En théorie. Mais alors là c'était un problème de leur côté, une erreur 500 okay. À propos d'un load balancer entre des VM pour faire simple. On ne va pas okay. rentrer dedans. Je n'ai pas suivi le truc. Un petit commentaire sur les load balancers.
Ah, ça me fait penser à... Ouais, les load balancers, ça permet de de gérer le trafic entre une ferme de serveurs, non? Non, c'est pas ça, pas du tout.
Chaud.
Ouais, c'est bien
pas,
sûr, évidemment, les gars.
Pas
j'ai révisé
van,
avant de venir. Parce que
ma vanne tombe à l'eau.
J'ai essayé vraiment de te détruire en sortant le bon truc. Ce sera le seul terme technique que je sortirai. Ciao. Non, ça me fait penser à OVH qui avait cramé...
Ouais.
Je pourrais en parler ça plus tard.
Pour le coup, ils avaient vraiment une galère. Mais là, pour le coup, le load balancer qui ne marche pas, c'est un peu décevant, tu vois. On s'attendait à pire.
Ouais.
Je suis un peu déçu.
Bah voilà, c'est pas des Russes, c'est juste voilà un problème technique chez un hébergeur de cloud et avec le fonctionnement d'internet d'aujourd'hui, à savoir que tout est centralisé chez quelques boîtes cloud. Ben voilà, quand ça se produit, il y a plus rien nulle part.
Mais ouf.
Mais comment t'as fait pour l'autre balancer? Par contre, je suis juste choqué. On dirait le mec qui a révisé au brevet, qui a révisé une page du truc
tapé,
et qui tombe pile poil sur cette définition.
Développement quoi. Informatique sur Wikipédia ouais. dans le train et j'ai tout révisé. Je suis un malade.
Putain, c'est...
Non, j'ai juste eu de la chatte, mais vraiment le prof qui interroge sur la question que t'as révisé, quoi.
Non, mais c'est bien.
Je te jure.
Incroyable.
J'espère aussi que vous allez bien, le chat, voilà, que vous êtes bien installé. Si vous voulez réagir à cette émission, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le hashtag U_. Voilà, on pourra faire passer vos tweets, vos remarques et vos questions pendant l'émission. Donc, n'hésitez pas, tout simplement. On a plein de questions d'ailleurs à te poser nous aussi. On a également prévu un petit jeu en fin d'émission. Mais d'abord, on va commencer, comme je vous l'ai promis, avec un point sur les cyberattaques entre l'Ukraine et la Russie, avec un petit retour en arrière historique avec Martin Untersinger, donc journaliste au Monde. C'est parti. Comment ça va, Martin?
Salut, bah ça va pas mal et toi?
Tu reviens sur cette émission?
Oui, avec
les gens
grand plaisir.
Te connaissent déjà. On avait parlé de Pegasus.
Oui, absolument.
C'était très cool. Franchement, je peux te le dire, on a eu des retours incroyables.
C'est vrai.
Sur ce format.
Bon bah la barre est super haute.
Ouais, c'est ça. Non mais merci
pas de pression.
Beaucoup. Ça nous fait trop plaisir vraiment de t'avoir. Je trouve que c'est des questions compliquées. Ou voilà, si t'es pas dedans, si c'est pas ton
ouais.
métier, t'as vite fait de dire des bêtises. Donc on est très content de t'avoir.
Cool, bah moi aussi, je suis très content d'être là.
Ça va en ce moment, t'as du taf,
un petit peu de travail.
Ouais.
Un petit peu de travail.
Ça court partout.
Ouais, jusqu'à 2h du matin hier. Enfin, je me plains pas, hein, y a pire dans la vie, mais ouais, c'est intense.
C'est chargé, ok. Bon, je vais pas rentrer dans le détail évidemment, mais l'Ukraine est en guerre depuis 15 jours, subit des invasions russes donc sur son territoire la semaine dernière. On a essayé de vous faire voilà un petit état des lieux de ce qui se passe et ce qui se passe pas aussi d'un point de vue cyber, parce que parfois on entend des trucs qui sont un peu hors de propos quoi. Cette semaine, on voulait faire un point donc sur les cyberattaques qui ont eu lieu pour le coup beaucoup plus régulièrement et intensément entre la Russie et l'Ukraine depuis 2014 jusqu'au déclenchement voilà du conflit qu'on connaît actuellement. Et ça tombe bien, Martin, tu étais sur place en
ouais.
fait.
Moi, ouais, j'ai passé une grosse semaine en 2019. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a l'invasion. Mais en fait, quand tu vas en Ukraine et quand tu discutes avec des Ukrainiens, tu te rends compte que depuis 2014, ils sont pas en guerre ouverte comme c'est le cas actuellement, mais ils sont dans un... Ils appellent d'ailleurs la Russie l'agresseur. Souvent, le terme utilisé, c'est l'agresseur. Parce que ils sont ils étaient et maintenant dans une forme ouverte, mais ils étaient dans une forme larvée de conflit. Et notamment dans l'espace numérique, c'était hyper présent. Il y a eu parmi les attaques qui ont eu à la fois le plus de dégâts concrets.
Ouais.
Et, qui étaient les plus techniquement évolués, c'est en Ukraine.
Ouais, on va revenir dessus. Ça commence comment en fait justement cet aspect agression technique?
Bah ça commence déjà par des manifestations fin 2013 en Ukraine parce que le président pro-russe à ce moment-là prend une décision de s'éloigner un peu de l'Union européenne. Plein de gens manifestent, ça tourne de manière extrêmement violente, il y a une grosse répression, mais le président pro-russe doit fuir en Russie. Et c'est à partir de là que pour la Russie, l'Ukraine est sortie un peu de son giron. Et donc depuis, la Russie essaye de réattirer l'Ukraine vers elle. Donc ça s'est vu parce que bah ils ont annexé littéralement une partie du territoire, hein, la Crimée, parce qu'il y a une partie des territoires en Ukraine à l'est qui ont plus ou moins fait sécession. Et sur le plan numérique, il y a eu des attaques. Et alors il y a eu tout un tas d'attaques, toutes très différentes. Et la première, celle qui était vraiment intéressante à plein de niveaux, c'est une attaque qui a visé leur élection, donc une élection de mémoire provisoire en 2014, quand le président avait fui. Et en fait, les pirates s'en sont pris à la commission électorale. Et en fait, ils ont... Ils ont pas exactement hacké l'élection, et c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. C'est qu'ils ont pas modifié les votes. En revanche, ils avaient remarqué que la commission avait un site, que c'était un peu le site officiel où elle affichait les élections. Et donc, quelques minutes avant l'heure, un petit peu comme chez nous, à 20h, d'annonce des résultats, les pirates ont essayé de, et ils ont partiellement réussi, de ce qu'on appelle d'effacer, en fait, le site de l'élection. Pour faire croire à la victoire d'un mec qui n'avait pas du tout gagné et qui était évidemment pro-russe.
Incroyable.
Et donc le but c'était pas de changer le résultat parce que enfin l'Ukraine est un pays moderne, ils savent faire une élection, il y a pas de souci, mais c'était de d'induire du doute, d'induire du chaos. Et notamment ce qui était intéressant, c'est que 5 minutes après le défacement d'une page annexe de la commission électorale, c'était en une de toutes les chaînes de télévision russes, évidemment. L'information avait été évidemment passée en amont. Donc c'était vraiment une attaque plus informationnelle qu'une attaque. C'était une attaque informatique de base, mais le but était moins informatique que vraiment de propagande. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux en allant en Ukraine, c'est que pour eux, ça, et c'était très visible, l'attaque informatique, ok, elle a des effets éventuellement sur les ordinateurs et tout, mais elle a surtout un effet sur l'esprit des gens. Et c'est vraiment la stratégie. On peut évoquer toutes les attaques qui ont eu lieu après, elles ont toutes un peu des formes différentes, mais globalement, le point commun, c'était vraiment d'affaiblir la confiance des Ukrainiens dans leur État et de montrer au monde que l'Ukraine est un pays mal géré, un pays failli, qui font n'importe quoi.
On imagine si pendant les élections françaises, t'avais un président 2 minutes après. En fait, non.
On a changé de programme, désolé.
Ça serait un chaos,
complètement. Là, en l'occurrence, ils ont pas réussi à hacker vraiment la page vraiment officielle. C'était une sous-page et ça a été détecté assez vite. Donc les dégâts ont été limités, mais ils ont eu vraiment vraiment chaud.
Puis imagine si ça affiche un faux résultat, si ça met gagnant quelqu'un après la confiance de toute la France.
C'est exactement
le ça. Ça peut galvaniser les peuples. Ils peuvent. Enfin, t'imagines si ça avait fait ça avec Trump, par exemple. Ils avaient affiché Trump gagnant et puis après non, en fait, c'était pas ça le gagnant, c'était quelqu'un d'autre.
Il a réussi à foutre de la merde alors que le résultat était bien affiché.
Donc imagine s'il y avait cette merde.
Si tu rajoutes du doute en plus,
Donc ça, c'est 2014.
C'est 2014.
Et après, ils s'attaquent aux médias, c'est ça?
Ouais. Alors ça, c'est une attaque pour le coup dont on n'a pas trop parlé en dehors de l'Ukraine, mais qui est assez ouf. C'est il y a plusieurs chaînes de médias. Des centaines de postes informatiques grillés, inutilisables. Une attaque vraiment destinée. Alors peut-être qu'ils ont récupéré des informations avant, on sait rien, mais en tout cas, c'était pas un but d'espionnage, c'était vraiment un but de sabotage.
Mais c'est possible même.
Bah ouais, c'est d'ailleurs ça a été fait même beaucoup plus proche de chez nous que l'Ukraine. TV5 Monde, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2015, on était en pleine période de psychose après les attentats à Charlie Hebdo, et d'un seul coup, écran noir sur toutes les télés qui reçoivent TV5 Monde. TV5 Monde en France, c'est pas trop regardé, mais à l'extérieur de la France, c'est plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Écran noir. En fait, les pirates étaient rentrés dans le système, avaient identifié le serveur qui... Alors moi, je suis pas un expert en images, donc peut-être que vous, oui, donc bon. désolé pour les approximations, mais en gros, le serveur qui prenait le flux d'images et qui le redirigeait vers les antennes, vers littéralement la parabole qui envoyait au satellite. Et ils ont grillé le serveur. Et ils ont, avant ça, ils avaient étudié comment il fonctionnait et ils avaient vraiment, je crois qu'ils s'en sont pris de souvenir aux cartes mères ou un truc vraiment où tu ne peux même pas redémarrer le serveur, quoi.
Je suis peut-être naïf, mais j'avoue, mais je pensais, moi, que c'était même hors scope d'une attaque informatique.
En fait, là,
de se faire surchauffer un truc ou quoi?
Jusqu'à.
Non, c'était pas surchauffer.
Exploser le matériel, tu vois.
Ok, ouais, c'est ça, ouais.
Ils changent le firmware, en gros. Ouais. D'ailleurs, ça a eu lieu là, il y a pas longtemps pour un autre truc dont on parlera peut-être, mais si tu changes le firmware du truc et que tu mets un truc n'importe quoi, vraiment bidon, en fait c'est très difficile à récupérer parce qu'en fait il faut changer le truc alors que l'appareil est même plus
ça va
démarrable,
exploser,
quoi.
Mais en fait c'est une
mais là on est à la limite du dégât physique, quoi.
Ouais. Ok,
c'est fou.
Noël 2015, encore plus critique.
Ouais, là, c'est encore, on passe un niveau de, dans la, la science-fiction.
Mais alors, donc,
c'était déjà bien. C'était déjà.
Ouais, c'était, mais ce n'est que le début.
C'est que
Qu'est-ce qui s'est passé?
Noël en Ukraine, en Europe centrale, il fait très froid. Des pirates réussissent à rentrer dans un transformateur électrique et à débrancher, de mémoire 30 000 foyers. Du réseau électrique. Alors là, ça reste encore entre guillemets d'un point de vue stratégique politique, c'est énorme parce que vraiment là, on est vraiment dans le cœur de l'objectif stratégique de on va instiller dans l'esprit des gens que en fait leur état il sert à rien et d'ailleurs il y a même pas d'électricité chez eux quoi. Là, en termes techniques, c'est entre guillemets plus classique. Ils sont rentrés dans les ordinateurs qui se trouvaient avoir les logiciels de pilotage des appareils du transformateur. Une fois que tu es dans l'ordinateur, ben il y a même des vidéos assez folles où on voit les Ukrainiens essayer de reprendre le contrôle de l'ordinateur avec la souris qui bouge toute seule et tout, et le mec, quelqu'un de l'autre côté qui est en train de d'éteindre les trucs quoi. Et ensuite il y a eu la même chose mais pire, ou en tout cas qui a vraiment beaucoup fait peur bien au-delà de l'Ukraine. Pile un an après, même période, quasiment la même date, donc pareil, on choisit bien au moment où ça fait chier de pas avoir d'électricité. Là, même chose. Dans un autre endroit, mais cette fois le malware, il était conçu pour parler directement aux systèmes industriels qui servent à, j'y connais rien en électricité, mais voilà, vraiment les machines quoi, qui permettent de piloter le réseau électrique. Et là, ça a fait peur à plein d'experts parce qu'ils se sont dit, autant un pirate qui rentre dans un ordinateur parce que il y a une porte dérobée, il a mis un malware et tout, ok. En revanche, le mec qui est suffisamment bon et qui a suffisamment de temps et de ressources pour créer un malware qui parle directement aux machines, là, ça a pas mal cogité. Ils se sont dit, ok. Et ça a un peu élevé, y compris en France, le niveau de sécurité de ce qu'on appelle l'OT, c'est-à-dire l'informatique des machines, quoi, des objets. Ouais.
Mais alors, les conséquences d'une attaque informatique comme ça, c'est quoi?
C'est d'un seul coup plus de courant. Et du coup, il faut redémarrer. Alors,
C'est sur un bâtiment.
Alors là, en l'occurrence, la deuxième, il me semble que c'est plusieurs centaines de milliers de foyers. Alors, ça dure pas extrêmement longtemps parce que les mecs, c'est quand même des. Certes, ils utilisent l'informatique, mais ils sont entraînés pour répondre aux problèmes, les crises. Donc, ils sortent, ils réinitialisent les trucs, machin. Ça dure, je sais pas, une heure, deux heures, trois heures, et ça repart. Le but est même pas. Le but est pas tellement de l'effet direct de il y a plus de courant, c'est vraiment l'effet un peu psychologique. Et même j'ajouterais un autre effet qui est regardez ce qu'on sait faire, on est capable de faire
c'est
des
une
trucs
démonstration de force,
exactement ouais. Regardez ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'hésite pas à faire. Il y a plusieurs
surtout pour les gens, une attaque informatique ça peut être pour les gens qui sont pas dans le milieu, ça peut être juste faire tomber un site ou quelque chose comme ça. À partir du moment où c'est connecté à un réseau énergétique, ça devient concret pour les gens et c'est fou quoi. Donc clairement
paradoxalement en Ukraine ça a pas tellement fait parler. Faut aussi se rendre compte que c'est un pays qui est en quasi-guerre depuis 6 ans. Donc en fait quand tu vois ton frère, ton fils partir littéralement à la guerre, en plus c'est une sorte de quasi-guerre civile parce que c'est des territoires qui ont revendiqué leur semi-autonomie. Bon, une coupure de courant c'est chiant, mais c'est sur la liste des problèmes, c'est pas forcément c'est
ils se sont pas forcément intuitivement dit que il y a un mec en slip en Russie qui est à l'origine du
Monde. Alors ils sont pas en slip, plutôt en uniforme, mais ça on peut en parler plus tard.
Et d'ailleurs juste quand la Russie fait ça, ils le revendiquent le hacking, ou justement il faut remonter la piste pour ça?
Alors il faut complètement remonter la piste. En fait, souvent on entend dire, et c'est vrai dans 90% des temps, qu'une attaque informatique, en fait, c'est très difficile de savoir qui est derrière. Le truc, c'est que depuis 5-6 ans, il y a plein d'entreprises, et globalement aussi les services de renseignement, mais ils font ça en secret, mais il y a plein d'entreprises qui se sont spécialisées dans l'analyse des groupes de pirates qui sont vraiment les plus bruyants ou les plus communs, mais vraiment les pirates d'élite. Donc on parle de Kaspersky, on parle de Mendiant, on parle de FireEye, ça a disparu, c'est Mendiant, mais des personnes qui sont quasiment des services de contre-espionnage à eux tout seuls. Et dès qu'il y a une attaque un peu sophistiquée, vont aller voir, retrouver les logiciels utilisés, les serveurs par lesquels ils sont passés, les outils, les méthodes, etc.
Ça et fait vraiment penser au braquage de banque à l'ancienne, en fait.
C'est exactement ça, récupérer les traces. Et au final, quand il y a des attaques, ils sont capables de faire des liens, de dire, attends, là, on sait que ils sont arrivés par tel endroit, ils ont fait exactement la même chose dans une autre entreprise. Ils font des recoupements comme ça, et par ailleurs, il y a la justice américaine qui a lancé des actions en justice avec donc des dossiers judiciaires et des preuves, des trucs assez importants, sur notamment sur une partie de ces attaques-là dont je vous ai parlé, et qui pointe directement les services de renseignement militaires russes.
Donc, oui, donc c'est pas un gars en slip, en fait.
C'est pas du tout, c'est plusieurs gars déjà, et c'est des soldats. Alors, il y a une partie, c'est probablement vraiment des soldats, il y a une partie où c'est probablement des gens qui, disons, le lundi et le mardi font leur truc, et ensuite le mercredi, le jeudi, le vendredi, travaillent pour le gouvernement.
Des hackers mercenaires, quoi.
Oui, après, dans le contexte russe, ils travaillent vraiment que pour les Russes.
D'accord.
C'est mercenaires,
CDI,
mercenaires
en
pour
CDI, quoi.
C'est corsaire.
Ouais. Okay. Ouais.
C'est plutôt corsaire.
C'est vrai.
Ouais, d'accord. Oui, okay.
Et alors, en 2017, donc, c'est l'apogée de ces attaques-là.
Ouais.
Là, c'est vraiment l'attaque la plus destructrice et coûteuse de l'histoire. Qu'est-ce que c'est?
Alors, le virus, probablement vous en avez entendu parler, c'est NotPetya. Tout commence, j'y suis allé, c'est assez fou de se dire que tout commence dans un endroit aussi finalement lambda, dans une petite entreprise à Kiev, qui fait un logiciel de comptabilité. Et en fait, ce logiciel de comptabilité, il fait partie des deux logiciels, ou des trois logiciels, que les entreprises ukrainiennes sont obligées d'installer pour leur business avec le gouvernement, pour déclarer leurs impôts, etc. Et les pirates, un an ou un an et demi auparavant, ils sont rentrés dans les réseaux de cette entreprise. Ils ont étudié le logiciel, ils ont chopé le code source du logiciel, ils ont étudié le logiciel. Ils ont vu qu'ils pouvaient ajouter des petites portes dérobées, des petites fonctionnalités cachées. Ils ont attendu. À un moment, ils ont remplacé dans les serveurs de l'entreprise le logiciel original par leur version. Le logiciel a été mis à jour. Du coup, d'un seul coup, il y avait, je sais pas, 200 000 entreprises ukrainiennes, 300 000 entreprises ukrainiennes qui avaient installé le logiciel avec la porte dérobée. Et ensuite, boum, déclenchement, la porte dérobée fait rentrer ce qui semble d'abord être un rançon GCL, donc un logiciel qui verrouille toutes tes données et qui te demande une rançon, il y a un message de rançon, sauf qu'en fait, c'était pas du tout un rançon GCL, le truc bidouillait le MBR, donc le truc qui se lance avant le système d'exploitation, et le rendait complètement inutilisable. Donc là, c'est le même genre de délire, c'est-à-dire que tu démarres ton ordi et il démarre plus, quoi. C'est même plus possible de le démarrer, il faut tout...
Sur des centaines de millions de gens clic, quoi.
Non seulement il avait donc la capacité de saboter saboter les ordinateurs, mais en plus il avait une composante de propagation automatique.
Ah.
Et c'est là que ça devient complètement fou, c'est que quasiment pas de manière instantanée, mais en quelques heures. Et je me souviens, j'étais au bureau et on a un système qui où on reçoit les dépêches des grandes agences de presse, et en l'espace d'une heure. Telle grande entreprise espagnole victime du cyberattaque, telle grande entreprise allemande victime du cyberattaque. Et alors au début, tu ne comprends rien. Ouais, en beaucoup plus, alors en moins grave, mais ouais, c'est ça. Et en plus rapide. Et en fait, toutes les entreprises qui avaient un lien, même ténu, avec l'Ukraine, genre une filiale, une boîte, un truc machin, le logiciel utilisant des failles, et c'est là on passe encore un cran dans le. Je vous refais l'histoire et je me rappelle de ces. Enfin, c'est fou, quoi. C'est que cette faille. C'était une faille qui avait été découverte par la NSA américaine. Donc l'agence de renseignement électronique américaine. Ils avaient trouvé un truc énorme dans Windows qui leur permettait vraiment de rentrer comme dans du beurre dans n'importe quelle machine. Et une vulnérabilité qui leur permettait de faire des rebonds. Et cette vulnérabilité, normalement, ils n'étaient pas censés sortir de la NSA. Sauf que si. On ne sait toujours pas pour qui, pourquoi, mais il y a des mecs qui un jour ont publié la vulnérabilité. Et donc cette vulnérabilité, elle a été utilisée.
Par les Russes.
C'est quand même. Et par les Nord-Coréens.
C'est les Américains qui l'ont fait.
Les Nord-Coréens.
Oui.
Et par les Nord-Coréens, juste un mois avant, par un autre rançon logiciel qui s'appelle WannaCry. Donc on est vraiment dans une.
C'est un très bon
arme.
Nom de rançon.
Oui, c'est. À l'inverse
moi,
de NotPetya, qui
aussi,
est pas très bon, mais bon. Et donc, il y a y compris des entreprises françaises. Alors, elles en ont pas beaucoup parlé, mais par exemple, il y a certaines boîtes, notamment une dont le nom m'échappe, qui fait des matériaux de construction. Qui est assez connu, bref, peu importe, le nombre reviendra, qui a, littéralement, on pouvait plus payer pendant une semaine aux caisses automatiques, ils ont mis un an pour s'en remettre, pour vraiment repartir, pour revenir au niveau où ils étaient au début.
Saint-Gobain.
Voilà, Saint-Gobain. Donc c'était vraiment, et là, ça, alors, de mémoire, la moitié des ordinateurs en Ukraine ont eu le truc, ça, ils ont perdu un point de PIB ou un demi-point de PIB en une après-midi. Enfin, c'était vraiment très, très... Les distributeurs de billets ne marchaient plus. Enfin, c'était un...
C'est du jamais vu pour une attaque informatique, quoi.
Et évidemment, la date de l'attaque, très important. Le jour de la fête de l'indépendance ukrainienne. à la fois pour montrer on vous attaque au moment où vous célébrez votre voilà, et surtout à un moment où les gens sont pas au bureau, l'équivalent du 14 juillet chez nous. Donc moi j'ai parlé à des gens qui disent ah ouais, moi je me souviens très bien, moi j'étais à l'autre bout du pays dans ma maison de vacances et ben j'ai dû revenir en quatrième vitesse à Kiev.
Et juste c'était un ransomware, genre si tu payais c'est bon.
Non, pas du tout.
Là c'était vraiment une idée.
Ah non, c'était vraiment c'était un faux ransomware, c'était ouais. Vraiment pour faire perdre du temps en fait.
Ouais,
dire ah mince, on est attaqué par un logiciel et pas par l'état russe.
Est-ce d'accord. que c'est pour ça que ça s'appelle NotPetya?
Oui, parce qu'en fait ça reprenait il est bon, hein. Ça reprenait de mémoire une partie du code d'un rançon logiciel un peu naze, enfin naze, pas très évolué, qui s'appelait Petya, qui est en fait la pierre.
Ça veut vraiment dire que c'est pas celui-là.
Ouais,
c'est
voilà. Vrai.
Alors, ça ressemble,
mais c'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, maintenant on a un corpus, enfin un ensemble d'éléments techniques, d'éléments juridiques, etc., qui montrent que ça a été fait par le renseignement militaire russe et que le but était vraiment à la fois. Alors là, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le fait que ça ait débordé à l'étranger, y compris en Russie, hein, y compris en Russie, c'était totalement involontaire. C'est-à-dire vraiment, ils se sont dit voilà, le truc a déraillé quoi. Mais certains, et y compris des gens qui ont vraiment été sur place, disent que ça faisait partie du plan entre guillemets. C'était aussi pour envoyer un message en disant faire du business en Ukraine, c'est dangereux.
Ouais.
Ce qui est aussi
pour les entreprises russes.
Pour les entreprises russes, mais autres aussi. Pour envoyer le message aux entreprises occidentales, ben vous allez en Ukraine, ok, bah vous risquez péril. Quoi.
Donc tout ça, en fait, à chaque fois, c'est c'est décrédibiliser le pays. Quand
exactement.
Même.
Et il y a toujours un aspect psychologique. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, en Occident entre guillemets, on voit les attaques informatiques et l'aspect plus propagande, manipulation, comme deux choses totalement différentes. Ailleurs, et notamment en Russie, c'est pas la même chose, mais c'est pas deux choses de nature différente. Par exemple, pour les Nord-Coréens, quand Seth Rogen, l'acteur, fait un film qui se fout de la gueule de leur chef, c'est la même chose.
Ils
c'est aussi grave que si on le piratait leur banque, bon, pas vraiment de banque, mais leur réseau d'électricité. Pour eux, c'est la même chose parce qu'en fait, ils font pas de différence entre une cyberattaque et une attaque, ce qu'ils appellent informationnelle.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que quand on comprend ça, on voit pourquoi ces attaques, elles ont toujours un aspect un peu de propagande, de manipulation, de l'impact psychologique. Quoi.
Alors aujourd'hui, donc ça fait 8 ans que la Russie prépare son arsenal quoi, technologique. Ouais. J'imagine que logiquement, elle a accompagné son attaque cyber, pas son attaque terrestre, par ouais. Une attaque cyber.
Alors pas vraiment. C'est ce que tout le monde attendait un peu. Alors déjà, il faut dire que depuis 2018-2019, c'est plus calme. Comme tu as bien vu l'année hein, 2014, 2015, 2016, 2017, ouais. 2018, machin. Depuis, c'est un peu plus calme, notamment parce que les Ukrainiens ont considérablement augmenté leur niveau de défense, ils ont reçu de l'aide de l'OTAN, des États-Unis, de l'Europe, etc. Il y a des entreprises aussi qui les ont aidés. Donc déjà, le terrain était un petit peu plus calme. Mais tous les experts, vraiment tout le monde, se disaient quand les chars russes vont passer la frontière, en même temps, il va y avoir des cyberattaques. Et en fait, il y en a eu très peu, ou en tout cas pas du tout de l'ampleur qui pouvait être anticipée. Alors il y a quand même cette histoire de satellite qui est quand même vraiment très très intéressante. Je sais pas si vous avez suivi, non. À peu près une heure après que les premiers missiles se sont abattus sur l'Ukraine, il y a tous les abonnés par satellite, qui passaient par un satellite bien précis, qui ont perdu leur connexion. En fait, il se trouve que on revient au truc de firmware, c'est qu'il semblerait que le firmware de leur modem ait été à distance remplacé, ou du moins on a interféré,
altéré, ouais.
Modifié. Et il se trouve que le satellite qui est utilisé, et notamment par les abonnés en France, hein, qui ont pas d'ADSL, pas de fibre et tout, soit aussi utilisé par l'armée ukrainienne. Donc, il est possible, même si pour l'instant c'est assez, le fabricant du satellite communique pas trop, etc. L'hypothèse la plus probable, c'est soit qu'ils ont voulu rendre certaines communications satellitaires de l'armée et du gouvernement ukrainien inopérantes, soit faire un petit peu comme avec NotPetya, remplacer avec une fonctionnalité cachée, soit pour carrément écouter tout ce qui passe par les modems, soit pour les détruire, mais à un autre moment.
Donc, parce que le modem, c'est quand même l'endroit où tout passe.
Ouais. Et donc là, il y a sur les forums, il y a des gens, le 24 février au matin, ah ben, mon modem marche plus, voilà. C'est assez.
C'était juste un petit remplacement de. Et en fait, les conséquences, on les saura plus tard, quoi.
Ouais, c'est pour ça que je dis, il faut surveiller. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de ce truc.
Et donc, avec les Français, on a le même. Tu disais.
En fait, c'est un satellite. Non, mais en fait, c'est
pas dans le modèle. Benjamin, c'est pas. Je sais pas. Tu disais un truc comme ça.
C'est un satellite qui, en gros, t'as le satellite qui envoie qui envoie Internet à plein de gens qui ont une petite parabole et un modem. Et le satellite, il est aussi connecté à ce qu'on appelle un téléport, ou à des téléports, et qui fait la liaison avec Internet. Donc, ta vidéo YouTube, elle part, tac, elle passe du téléport, elle va dans le satellite, elle redescend sur Terre, dans le modem de l'abonné. Et donc, il y a plusieurs fournisseurs d'accès à Internet en France. De tête, il y en a qui s'appelle Big Blue et l'autre Nordnet, qui est une filiale d'Orange, qui fournissent un abonnement, un FAI par satellite. Et tous les ou quasiment tous les abonnés de ces deux FAI, le 24 février, bam, plus de modem. Et donc là, encore aujourd'hui, en tout cas quand j'ai fait l'article il y a deux jours, c'était toujours pas résolu, en tout cas pas pour tout le monde.
Là, il y a peut-être des types qui sont sur Internet en France avec une petite backdoor russe tranquille.
Ben, peut-être.
Ok, cool.
Le chat en sueur.
Après, ça concerne très... Ouais, c'est assez niche.
C'est
vraiment...
l'armée, du coup.
Et les Ukrainiens, leur armée et leur gouvernement utilisaient aussi ce satellite pour leur communication Internet. Pas pour leur communication secrète militaire, mais pour juste des communications, pour être connecté à Internet. Ouais. Et il y a eu des... ouais, peut-être. Il y a eu des... Ils sont très bons, même, les Ukrainiens. On en parlera peut-être, mais... Et il y a même des éoliennes en Allemagne, genre 5800, qui d'un seul coup ont plus pu être pilotées à distance parce qu'en fait, elles utilisaient un petit émetteur satellite pour être connecté à Internet et pour être...
Ouais, donc c'est vaste en fait. Ah ouais, ça touche beaucoup.
Ça rebondit partout, c'est incroyable.
Mais globalement, il n'y a pas eu de genre d'énormes cyberattaques qui paralysent, je sais pas, le réseau électrique, Internet, d'électricité, les chemins de fer, alors que vraiment c'était l'option privilégiée, quoi.
Alors, mais du coup, tu entends que
j'arrête de parler.
Non, pardon. que ça peut peut-être venir du fait que les Américains et les Allemands, ils aident genre les Ukrainiens un peu maintenant sur l'aspect.
Ouais, ça peut expliquer. Ça peut expliquer. Il y a aussi des entreprises genre Microsoft qui surveillent l'Ukraine parce qu'en fait pendant 6 ans ça a été vraiment une espèce de laboratoire à ciel ouvert. Donc globalement tout ce qui se passait dans un ordinateur en Ukraine, il y avait plein de gens qui étaient intéressés pour voir ce que c'était, quoi.
Pardon Maxime, j'étais totalement.
Non, tranquille. Je suis vraiment très déçu. non, c'est que je me dis du coup tu peux avoir un rayon d'action juste par internet de fou sur des trucs concrets, justement pas juste sur des sites qui peuvent tomber, quoi. Et je me demande pourquoi il y a pas du coup de un réseau de secours offline, tu vois, genre au moment où tu vois que c'est la merde et que t'arrives plus à fermer ta fenêtre dans la centrale nucléaire, bon bah tu passes sur le réseau offline, quoi, tu vois, tout simplement sur un autre PC qui est à côté. Mais en fait genre ça fait flipper même pour nous.
Les trucs les plus sensibles en tout cas en France sont quand même bien contrôlés, relativement offline. C'est on a quand même progressé depuis 2014. Même l'attaque contre la commission électorale, c'est un peu waouh, ah ouais, en fait c'est une attaque qui mélange propagande, etc., machin. On découvrait un peu tout ça. Là, on commence à monter peu à peu en compétence. Il y a plein de textes de loi en France qui ont été votés pour sécuriser les réseaux critiques. Donc, c'est peut-être plus difficile à faire en France. Je touche du bois, mais.
Espérons. Merci énormément. C'était vraiment passionnant ce sujet.
Ben, merci pour l'invitation.
Martin Trofort, le chat, a trop aimé aussi.
Cool.
T'es un même ukrainien, là? Tu disais qu'il était fort en même. Moi, du coup, je suis hypé.
Il est un peu nul. Mais il m'a fait beaucoup rire. Vous savez comment on appelle Internet en Russie quand il marche pas? L'internet.
Okay.
C'est tout.
Ok,
pour
là-dessus.
Moi.
Oh, il n'a pas de micro dans les mains, mais il l'aurait lâché. Il l'aurait lâché, bien sûr.
Et ceci est un TikTok.
Ouais. Alors, en fait, c'est fake, mais bon.
C'est censé être un qui explique comment utiliser un char russe.
Ouais.
Mais c'est faux.
Oui. Alors, je sais. J'ai plus les détails, mais je crois qu'il y a soit un problème de date, c'était fait il y a vachement longtemps, ou c'est pas directement lié à l'invasion. Mais c'est un bon exemple parce qu'en fait, on l'a tous vu ce TikTok.
Ouais.
Et on s'est tous dit waouh, les Ukrainiens, ils sont quand même forts, quoi. Ouais. Ils sont drôles, mais ils sont roulés dessus, et pourtant ils gardent la tête haute. Franchement, bravo. C'est ça le but. C'est pas que ce soit vrai, faux ou pas. En fait, ils s'en foutent. C'est pas le but, quoi.
Trop intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Martin, d'être venu. Tu sais que tu es le bienvenu.
Ouais, si je peux revenir faire des blagues nulles, alors là vraiment aucun souci.
Internet, je l'ai kiffé. T'as soigné ta sortie avec ça.
Je vais le ressortir ce soir. Merci énormément. On va passer à notre invité maintenant. C'est juste après le jingle. Merci encore, Martin.
Merci, Martin.
Et on envoie le jingle, tout simplement. C'est parti. C'est toi.
Ah, d'accord.
Mais oui.
Ah, ok. Je croyais que j'étais expert en cybersécurité.
Non. Ça va ou quoi? Vous avez bien aimé cette...
carrément. Chronique. Il est trop cool.
Très cool.
Je dis ça parce qu'il nous entend en régie. Je dirais ce que je pense vraiment. Non, c'est pas vrai.
Franchement, assez bluffant ce qui est en train de se passer.
Carrément.
Puis en vrai, c'est cool parce que nous, on s'y intéresse beaucoup. Enfin, on regarde, c'est de débrief ce qui se passe.
Ouais.
Mais c'est tellement compliqué ces trucs-là. On est content aussi d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi.
Mais là, on vient d'avoir une bassine de nouvelles hyper anxiogènes et qui vont être trop mal et on va devoir faire semblant que tout on se marre trop ici.
Non, mais c'était, écoutez, je pensais que c'était cool une petite partie un peu.
Ouais, ça t'as plombé tout. L'ambiance, c'est tout.
Maintenant, c'est fini.
Ok.
D'accord. On petite soupape de respiration. Et puis, on va parler de sujets hyper intéressants, de nouvelles technologies, d'entrepreneuriat, avec toi, Maxime. Ça, honnêtement, ça fait trop plaisir de t'avoir ici.
Eh ben, merci. Ça me fait très plaisir d'être là parce que j'ai fait un master, mais c'est que je me déplace pas forcément souvent sur Paris pour faire des émissions.
Mais
et ça fait longtemps que tu m'avais parlé de ça et ça rentrait et tout. Donc, trop bien. Je suis trop content.
Voilà. Ça régale.
Je suis là.
T'as même pas mutualisé d'autres trucs en plus à,
non,
à Paris.
Mais ça, c'est pour toi.
Mais je le vis comme je sais pas, vraiment un statut.
Et dingue, un peu
quoi.
Toi, ça va.
Allez.
Je l'attendais quand même. Le bastion bordelais.
On se connaissait pas il y a une demi-heure. Mais t'es un gars super. Même si tu dis chocolatine. Allez.
On me dit que tu as toujours été intéressé par les nouvelles technologies. T'en as pas fait le thème principal de ta chaîne YouTube.
Non.
Pas forcément une mauvaise décision finalement.
Ouais, c'est vrai. Parce que je suis vite dans l'approximation quand même.
Non, non, pas mais c'est pour vrai. Ça, mais c'est pas
non, mais j'ai compris ce que tu veux dire.
Non,
mais
je déconne. Non, évidemment, par rapport au succès incroyable que tu as maintenant. Est-ce que, en vrai, c'est une question que je me suis posée, il y a un monde où, genre, au moment de créer ta chaîne,
ouais,
tu fais une chaîne où t'as juste les 25% de technologie, innovation, spatiale, tu vois.
Ta question, c'est est-ce que ça aurait pu arriver?
Et pas du tout divertissement. Ouais, est-ce que tu t'es posé la question?
Moi, je suis guidé par l'algorithme YouTube. Donc, si l'algorithme YouTube avait décidé que les vidéos qui marchent le mieux, c'est c'est les nouvelles technos. Non, mais en fait, comme je dis souvent, c'est que du coup, moi, je m'amuse dans ce que je fais. Ça capte une audience importante et si j'arrive en fait à faire, tu vois, à driver une petite partie de l'audience, même si c'est 10% ou 5% ou 20%, vers des sujets qui moi me touchent beaucoup. Bah, je suis trop content. Et du coup, les vidéos qui me rendent le plus fier, c'est genre, j'en ai une en tête là, mais c'est genre que j'ai fait une vidéo observation spatiale en plein milieu du confinement. Ouais. Bah, j'étais trop content parce que je sais pas, c'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, loin de là, tu vois, mais c'est juste que du coup, elle a fait plus d'un million de vues, et donc je me suis dit, putain, j'en ai, c'est complètement fou, tu vois. Et donc trop content de ça, parce que c'est une vraie passion et je me dis, je vois vraiment tout comme un entonnoir, tu vois.
Ouais.
Et je me dis, putain, attends, il y a 1 million de personnes qui ont vu cette vidéo.
Mais tu
l'as
si dès
à la
début,
fin, il y a 2 personnes qui ont acheté un télescope.
C'est fou.
C'est incroyable, c'est vraiment.
Mais est-ce que tu l'as dès le début, du coup, cette réflexion-là?
Ouais, en mode, c'est un piège, ma chaîne, en fait.
C'est
genre,
mais c'est fou.
Ouais, de ouf. Mais ouais, ça, vraiment, ça fait longtemps que je me dis ça, ouais.
Ça, c'est les études.
C'est les études?
Bah, parce que je pense que les gens le savent quand même, mais t'as
j'ai un doctorat, ouais.
Un passé de.
Non.
non, c'est quoi? Non, mais t'as fait de la com.
Oui, à la base,
tu as cette.
J'ai fait de la à la base, en fait, je voulais faire très simple. Je voulais être community manager pour Ubisoft. C'est très précis. Parce que j'étais à fond jeux vidéo et tout. Et je me suis dit, je vais faire de la com dans un domaine qui m'intéresse. Parce que la com, ça rassure les parents. Tu verras, c'est un vrai métier. pas comme youtubeur. Et dans un domaine qui m'intéresse. Donc, c'était le meilleur des deux mondes et tout. Voilà, je voulais absolument faire ça. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais,
Oui, t'avais ce.
Et du coup, voilà. Et j'ai fait, du coup, les études, bah, pour faire de la com, digitale, comme on dit. Voilà. Donc, j'ai fait un master, l'intitulé, c'est web marketing, un truc comme ça. Ça veut rien dire, mais c'est ça, quoi. Et en fait, tout de suite après la sortie des études, j'ai commencé par créer du contenu à l'époque sur Twitch. Donc, j'ai commencé streamer direct,
Twitch, sérieux?
Ouais, ouais. J'aime rappeler mes racines.
Mais oui.
Non, je suis streamer à la base, vraiment. Mais maintenant, sur Twitch, je suis inexistant, mais ouais, de ouf. Mais c'est la maison Twitch. Quand j'y retourne,
que parfois, tu allumes un stream.
Ouais.
Tu as un endroit random et genre,
ah ouais,
et il y a personne et
ouais, j'adore,
et c'est, mais et les gens te trouvent de façon aléatoire.
Ah ouais, j'adore consommer Twitch de manière discrète, c'est-à-dire, ouais, même en tant que viewer, je vais sur des, s'il y a plus de 3 viewers, ça m'ennuie. et après j'ai 2 chaînes secrètes. Alors, il y a une qui a un peu et du coup voilà, mais je peux vraiment littéralement choisir mon nombre de viewers. Tu vois, donc je peux lancer un live avec 20 viewers. C'est génial.
C'est trop bien.
Et vraiment, bah, j'appelle les types par leur prénom, quoi. ils viennent à manger à la maison le soir.
Tu leur demandes de pas partager, genre que.
Ah ouais, non, mais les gens, ils sont vraiment dans la confidence. Mais ça marche à un certain stade, tu vois. ça sur la première chaîne secrète qu'a leak, vers 100 viewers, ça c'est parti en couille.
Ouais.
Mais la confidence marche, moi, ça fonctionne. C'est trop, c'est la famille.
Drôle. C'est drôle.
C'est j'adore vraiment. C'est.
Puis et comment les vins originaux, les vins originels trouvent le truc?
Alors attends, au tout début j'avais fait. Alors très simple. Donc t'as ma chaîne principale. Sur la chaîne principale, au début, j'avais dû soit faire un tweet que j'ai supprimé instant ou une story que j'ai supprimé instant et dire voilà, puis il y a une deuxième chaîne. Donc ça a fait peut-être 1000 abonnés, un truc comme ouais. ça, tu vois. Donc 1000 abonnés, ça ouais, donne, ça donne 10, entre 10 et 100 viewers, j'en sais rien. Et à ces 10 et 100 viewers, j'ai dit, et hop là, une autre. Tac. Et en fait, tu fais comme ça encore un entonnoir, tu vois, encore un entonnoir.
Et niveau de préparation.
Je peux même encore en faire un autre en dessous avec deux gars. Voilà.
Tu veux, je peux me connecter à ton stream.
Ouais, ouais.
Et puis voilà, c'est ça. J'ai eu l'impression, c'est que, en parlant de nouvelles technologies, sur ta chaîne, tu mets, c'est pas un point d'honneur, mais t'es très souvent hyper tôt sur des nouvelles technologies, des trucs qui viennent de sortir. Genre, la VR, t'en as fait hyper tôt. Mm-hmm. Lufir de Boston Dynamics. Mm-hmm.
C'était le drone.
Mais j'étais tellement, tellement jaloux. Mais franchement.
J'en rêvais, je voulais l'acheter. Hein. Je te dis, j'en ai rien à foutre. Je me disais, je vais faire 12 OP, je vais l'acheter.
Mon il coûte 60 000 boulettes, c'est ça,
ouais,
ce dog là.
Ouais, ouais. Non, non, mais je suis pas comme nous tous, je pense, mais genre, je vois une technologie, je me dis, mais je veux la tester absolument. Genre, c'est trop, ça me. Genre, je veux toucher le futur, tu vois.
C'est quoi la dernière technologie, la dernièrement qui t'a fait cette sensation?
Bah là, pas plus tard qu'hier soir. Donc, on a tourné une vidéo sur une maison flottante. C'était le concept de la vidéo. C'est pour le coup, vidéo divertissement à fond.
Ouais.
Et j'ai un drone sous-marin que j'ai pas suffisamment utilisé parce que j'adore cette technologie. Et on était en flottaison, j'allais dire. Parce que c'est pas vraiment un bateau, je sais pas, voilà. On flottait au-dessus d'une carrière immergée, une carrière de granit qui a 50 mètres de fond. Et c'est une carrière qui a une histoire de malade, tu vois. Genre, il y a des gens, enfin, il y a des mineurs de granit, j'imagine, je sais pas comment on appelle ça, qui ont fait carrière dans la carrière et qui ont, du coup, cassé du granit. Et avec mon drone, depuis mon salon flottant, et on a exploré les fonds marins à minuit 40 de la nuit.
C'est incroyable.
Et genre, c'est comme une map de jeu vidéo. Genre, un moment, on a trouvé, ouais, un peu comme des images comme ça, tu vois. On a trouvé un moment un bidon bleu en plastique, objet anodin dans la vie de toujours, tu t'en bats les steaks. Là, on l'a trouvé au bout d'un quart d'heure d'exploration sous l'eau depuis notre maison. Mais on était refait, c'était un highlight, tu vois.
Putain, mais trop cool.
Et genre,
consécration.
Attends, ouais, enfin, une utilisation d'une techno comme ça, genre, enfin, le drone sous-marin, pour le coup, j'adore. Pour
si tu fais ça dans les canaux de Paris, tu regardes tous les objets. Je pense qu'il y a des dingueries. Tu fais une vidéo.
Après, gros problème avec cette techno, c'est la visibilité. Genre, je pense qu'à notre pari, tu vois, à 50 cm et ça s'effondre. Okay. Là, on avait de la chance que c'était pas trop brassé et tout, d'accord. Mais c'est vite, vite contraignant.
Sur le robot dont je suis jaloux.
Ouais.
C'est quoi? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plus effrayé, tu vois, quand tu l'as eu en main? Ou c'était,
Ouais, c'est le truc le plus effrayant, c'est le truc qui effraie tout le monde dans les vidéos de Boston Dynamics, c'est la gestuelle trop proche du monde animal, quoi.
Ouais.
En fait, c'est le truc où, en fait, t'as un, je sais pas comment on peut appeler ça, un biais cognitif, un bug au niveau du cerveau, où en fait ton cerveau il dit attends, est-ce que c'est vivant? Je pense que c'est ça le plus terrifiant, même quand on voit le type qui fait les saltos de Boston Dynamics et tout. C'est
qu'il y a un,
il y a un petit truc dans le cerveau qui te fait douter, genre mais attends, c'est vivant en fait ça,
ouais.
Non?
Surtout quand tu le pousses, un peu violemment et qu'il se rééquilibre, là, ça c'est
carrément. Ouais, voilà. On l'a reçu, on l'a unbox et tout.
C'est vrai que c'est peut-être le malaise du fait que c'est totalement un humain, enfin un truc animal, t'as aucun souci.
C'est la gestuelle, ils auraient pu faire un truc qui quelque part.
Robotique, ouais.
Ouais, très robotique, assumé pour rassurer en fait. Pour dire t'inquiète, c'est une machine. Mais ils ont pas fait ça. C'est ça en fait, le moment où Boston Dynamics a vrillé, c'est qu'ils se sont dit on va faire un truc où ça peut être peut-être un labrador.
Potentiellement.
Et là maintenant il fait quoi
futur.
Pardon, excuse-moi, mais quand, là il t'amène le journal chez toi maintenant, le truc.
Ouais.
Tu l'utilises pour quoi chez toi là maintenant?
Bah là c'est là où c'est votre taf, mais c'est que oui c'était une location pardon.
Ok, okay, okay.
Mais c'est que là c'est vraiment contrôlé au contrôleur, ouais. Et c'est moi qui fais tout là.
Ouais.
Et c'est un peu le truc de Boston Dynamics, ils font de la robotique, ils font pas du code trop, tu vois. Donc ils sont en mode bah voilà les entreprises qui savent. Coder, débrouillez-vous avec ça, voici les possibilités, mais
avec plaisir, envoyez-le nous.
Ben alors j'ai la location, c'est une entreprise allemande trop sympa, j'ai le contact. Le type il le loue à Dassault et à je sais pas qui, tu vois.
Ah ouais.
Moi j'appelle, j'ai dit bonjour.
J'ai le chat YouTube.
Je me souviens plus de la location de la semaine, mais on était sur 20K ou un truc comme ça, et c'est pour ça que j'ai dit à Romain qui fait de la tech, Romain Tech News and Test, je lui ai dit si tu veux c'est maintenant, quoi. J'aurais dû t'appeler aussi, putain.
Non mais y a pas de mal, non mais je vois
j'ai bien senti
les préférences qui vont
Toi, t'en ferais quoi, Mikot? Parce que, genre,
mec,
Michael Reeves, il a déjà fait pisser dans un verre. Ouais. Qu'est-ce que tu nous inventerais? Oh,
ouais. Toi, tu passerais deux mois dessus.
Ouais, vraiment, je pense que ce serait un gouffre à temps. Ouais. Mais, attends, on aurait trop dit des trucs.
Ah, c'est clair. Et tu peux, ne serait-ce que, c'est tellement stable que tu peux poser un verre d'eau dessus. Et le faire ramener à l'autre bout du bâtiment sur une commande. Enfin, je veux dire, il est beau. Enfin, franchement, moi, il me fait pas peur en soi, tu vois.
C'est son mouvement en fait qui est chelou. Mais je suis d'accord que c'est un produit bien fini.
Putain, il y a l'option avec le bras, ça aussi, ça me.
Le bras, il est encore plus démoniaque. C'est celui qui ouvre le tentacule là, comme ça,
qui vient ouvrir la porte et tout là.
Mais t'as l'air d'avoir développé une belle petite relation affectueuse avec.
Bah, je lui avais donné un prénom, je me rappelle même plus. Yuki, je crois, non, je sais plus. Non, je lui avais donné un prénom, je me rappelle plus. Mais ouais, c'est fou. Non, mais c'est ça, si on retombe dans le truc de. Où tu pourrais t'attacher à un robot sans problème, hein, je pense. C'est flippant ce que je dis.
tu dis bien, viens sur les jambes, là, comme ça.
Je pense, ouais.
Il y a un truc qui est assez fascinant, c'est le nombre de projets que t'es amené à faire. Alors que ce soit sur ta chaîne YouTube, mais que ce soit de façon générale dans l'entrepreneuriat. C'est l'aspect que les gens voient pas forcément, mais t'en parles un petit peu en interview quand même. Je sais qu'il y a une petite communauté de gens qui regardent les interviews entrepreneuriales de MXM et qui aiment trop et qui aimeraient que tu lances une chaîne d'entrepreneuriat.
Mais tu détestes ce que je fais à côté, tu sais. Genre, ils regardent, non, c'est.
Premier degré qui vont moins regarder.
Oui, de ouf. Oui, vraiment. Oui, il y a clairement des gens
qui attendent que tu crées une chaîne.
Il y a souvent des commentaires comme ça, oui, c'est ça. Il y a souvent des commentaires comme ça dans les interviews, les trucs genre, j'aime pas ce qu'il fait, mais le côté entrepreneurial, ok, ouais, allez, ça passe, ça marche.
Tu veux pas lancer un podcast business?
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ma reconversion, mec. Peut-être, hein.
Moi, je suis client. Tu lances ça,
dans 5-10 ans, peut-être.
Trop stylé.
Ça sera payant.
C'est quoi ton pire? Donc, t'as dû avoir des interactions avec des techs, des développeurs dans certains de ces projets-là. Est-ce que t'as un souvenir de ta pire interaction avec un dev, un tech, un truc vraiment, tu t'es dit,
avec moi tout à l'heure là. J'en
avais un autre et c'est devenu toi. Ouais, toi, on s'est rencontrés. Premier quart d'heure.
Je suis monté sur le podium. J'ai dit dégage.
En vrai, hors caméra, on s'est détesté, mais on s'est adoré. Juste après. C'est pas vrai.
C'est que drôle. Tout est faux.
Bah ouais, en fait, du coup, au lancement de ma marque de vêtements Space Fox. Ouais. Donc il y a 3 ans de ça environ. Donc c'est un projet sur lequel on travaille pendant 2 ans en sous-marin avec deux potes du coup que j'ai rencontrés à l'université quoi. Et donc projet de potes trop bien tu vois. Et on développe les vêtements, les lignes.
À une époque où c'est pas courant.
À une époque où c'est pas courant effectivement. Il y avait que Vodka et Unicorn qui avait fait ça. On est trop contents du projet. Nanani nanana. Et donc il nous faut un site, c'est quand même une bonne idée tu vois. Donc on fait appel à une boîte. Et voilà, on avait un budget très limité parce que on avait à peu près 10 000 euros pour faire le site.
Okay.
Ce qui est pour un site
pour un e-commerce, ça se fait.
Ça se fait, mais on m'avait dit que c'était un peu just quand même. On n'est pas dans le haut de gamme. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais
vraiment aujourd'hui avec toutes les plateformes que t'as, tous les tools,
tu fais un Shopify.
Ouais.
Ils étaient bien vendus les types. Ils ont, on va faire une dinguerie, vous inquiétez pas. Bon. Et donc première réunion après 2 mois où on leur a confié le projet tu vois et le mec a son MacBook tu vois il a son MacBook fermé comme ça et il y a donc tous les gens Spacewalk sous là puis il dit vous êtes prêts
ah non
et donc je fais waouh il est chaud tu vois. Enfin genre il a confiance en lui quoi il va nous présenter le site c'est notre vitrine on est trop hypé tu vois il retourne son MacBook il l'ouvre et là je reconnais le thème pourri de PrestaShop ou de je sais plus quoi tu vois mais genre
pour 10 000 euros t'as ça
voilà
enfin
et je, ouais exactement il a changé les images mais fin mais je te jure pas un truc de plus et du coup
mais il est méga hypé quoi c'est ça qui est débat
ouais le mec
là, il exagère
bon bref ok donc moi la première alerte je dis ouais je sens une petite douille quand même mais bon après il se justifie il donne des arguments machin bref vous inquiétez pas ça va venir il y a ça super mais en tout cas première alerte je le sens pas et le gars cette réunion là a lieu à la Redbox où je lui dis, voilà, et puis mes associés lui ont dit 20 fois, je suis youtubeur, ça va sortir à telle date, on va faire une annonce sur ma chaîne. Enfin, il est venu à la Redbox, il a vu les studios, on lui a fait la visite, c'est important, c'est ce que je dis là pour la suite. Okay. Le jour où on sort le site, donc lancement, gros stress et tout, on voit, tu sais, le nombre de gens monter, j'allais dire sur le load balancer, mais non, parce qu'il avait pas mis de load balancer.
Et sur une page 404.
Ouais, exactement. Donc, on voit genre 100, 200, 300, et puis, bah, comme j'avais mis une vidéo en amont, vraiment, je crois que ça coupe à 1000 ou 1200 personnes en simultané, ce qui, pour une vidéo, qui doit avoir 2 millions de vues à l'heure où je parle,
t'es vite vite saturé.
Ça arrive vite, ouais.
Donc le site down. Donc après 2 ans de travail, bah ça fait mal. Surtout que tu sais que tu peux te faire des doses. Tu sais que ça peut arriver et donc t'as bien mis la pression à la boîte en mode bon les gars, s'il faut payer en plus ou quoi, vous dites mais il faut que ça tienne, tu vois. Et là la boîte nous abandonne avec pour seule réponse ouais mais aussi vous aviez pas dit que c'était un youtubeur et vous aviez pas dit qu'il allait avoir un pic. Et
là, ils étaient venus à la Redbox. Ça, je me souviens de ce détail. Je m'en souviens.
Et ben c'est marrant, mais notre relation s'améliore de minute en minute. Tu suis très bien. Et
quel
voilà.
Scandale.
Et on s'est fait abandonner. Vraiment fou, mais fou. Au pire moment. Et là, t'es donc on met une page avec nos faibles
toi,
compétences.
Tu viens de faire ton lancement. Ça fait des semaines que tu bosses sur ton truc.
On a du stock avec tout l'argent immobilisé, genre si on le vend pas, c'est terminé, bonsoir, tu vois, ciao.
C'est parce que les gens se rendent pas forcément compte des investissements financiers pour avoir du stock.
Oui, bah tu connais ça.
Oui,
c'est fou.
Ouais, de ouf. Et donc, à ce moment-là, t'es comment?
T'es très fébrile. Et en fait, c'est une question d'heure parce que ça, on lance ça un week-end parce que souvent les lancements c'est le week-end sur YouTube, machin, je sais pas. Enfin voilà. Donc pire moment. Et au début, tu dis non mais notre seule solution, c'est d'appeler cette boîte et de faire en sorte qu'ils prennent leur responsabilité. Et en fait, au bout de 24 heures, 30 heures, 36 heures, tu fais
aucune réponse.
Ah ok, va falloir qu'on se débrouille autrement, quoi. Et en fait, s'ensuit l'anecdote suivante où j'ai rencontré le meilleur développeur ever, quoi. Qui est un mec qui suit de loin via Twitter.
Ah,
trop tôt. Okay. C'est la relation s'améliore, mais pas autant.
Ok. J'étais pas encore.
Bon, j'aurais vu ton problème à ce moment-là, je serais venu.
Fixe. Ouais,
j'aurais tout. Alors, non, mais parle-moi de cette légende alors.
Non, je sais pas si c'est une légende. C'est Ben. Déjà, c'est un être humain vraiment très sympathique et qui jour et nuit pendant 3 jours a sauvé le truc pour que le site soit en ligne au moins 4 ou 5 jours après. Et tout s'est vendu en plus vraiment au moment où c'était heureux en ligne, donc incroyable, avec un système de file d'attente et tout ça. Parce que le mec il arrive et
il y a tout à faire, quoi.
Bah c'est un champ de bataille, tu vois, genre c'est horrible, quoi. Il se rend compte de l'ampleur des trucs, il dit bah ouais, c'est ça pouvait pas tenir, c'est pas possible, quoi. Et donc moi j'ai très peu de compétences, hein, voire pas du tout, à part acheter des sushis et être là juste en mode tu veux un massage.
Ouais.
J'ai fait que ça pendant 3 jours, tu vois, en mode en fait tu te sens complètement inutile parce que j'ai pas les compétences. Et en fait à la fois je me suis fait abandonner par un dev, première expérience pas ouf, et à la fois je me suis dit ah ouais, en fait genre c'est quand même un métier où il y a une communauté et où
tu peux tomber sur une bonne pépite aussi, quoi, d'un gars.
Ouais, et puis genre il y a plus de question de d'heure ou de travail, ouais. Ou quoi, il est en mode voilà, c'est bon. Mais il savait pas dans quoi il avait foutu les pieds aussi. Il est arrivé, il a fait oui. Wow,
putain. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, ouais. Tu m'avais envoyé un message.
Ah, sûrement. En mode. En panique.
Tu connais pas quelqu'un.
Ouais, de ouf.
Tu sais faire ça.
C'est sûr.
Tout ce que tu pouvais.
C'est sûr. Mais c'était tellement stressant, franchement. Et le jour, ben, faut se dire que du coup, ça a mis donc 4 ou 5 jours à remarcher. On avait mis une page d'accueil en mode vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que vous êtes nombreux et que oh là là, on fait trop de ventes. Hein. alors que zéro. Et des fois ça remarchait, tu vois, genre on se couchait le soir à 4h du matin et ça y est, ça remarche, le site est en ligne, tu vas dormir un peu, tu mets un petit réveil à 6 du comme ça pour checker et là tu vois que c'est redown, tu pètes des plombs et ça pendant 4 jours.
En fait vous avez fait des drops mais sans faire exprès.
Ouais de ouf, exactement, on a inventé en fait le concept.
T'as eu une expérience terrible toi aussi
Ouais bah, ça me fait
des gens.
Enfin terrible, moi j'avais pas d'enjeu financier dans le game, quoi. En gros, j'avais fait le site choixdemerde.fr qui avait grave fonctionné, que okay. Tout le monde avait checké, c'était au moment des élections précédentes, donc okay. 2017. J'avais fait ce site avec la question finale, c'était il fallait choisir entre Macron et Le Pen. C'était c'était la blague du site, mais tout le reste c'était que des questions horribles entre jus de piste, tarte à la merde, tout, que des trucs comme okay. Ça. Et le site a buzzé de ouf. Et donc j'ai vu le truc monter. Déjà ça m'a coûté une fortune parce que les ressources que envoyait OVH aux gens, ben ils me disaient ben là ça va commencer à vous coûter beaucoup d'argent et tout. Je fais oh putain quel enfer. Quand ton site buzz et te dépasse comme ça.
Alors que y a pas une vocation économique.
Il y avait rien, il y avait pas une pub, il y avait que dalle et tout. J'ai fait oh mon dieu, mais il y a un côté un peu ego trip aussi qui
ouais,
entre en truc. Donc tu veux fixer.
C'est ça ou pas?
Ouais c'était ce truc.
Mais c'est toi ça.
Ouais,
j'ai fait une vidéo dessus.
T'avais une vidéo dessus, tu as participé à mon enfer. Squeezie a fait une vidéo là-dessus, il m'a mis down le site.
Ah ben voilà, mais c'est...
J'ai vu comme toi le truc concurrentiel personne, enfin le nombre de personnes en même temps sur le site, monter à 1000, 2000, et là, le site faire ciao, je vais me coucher.
Attendez, juste la probabilité que
ton site était dans une vidéo de ton voisin.
Bah, c'est sûr que j'ai fait des vidéos sur ce genre de site-là. Est-ce que c'était celui-là en particulier? Je sais pas, mais c'était la mode de ouf à une époque.
À une époque, tout le monde a fait des vidéos sur ce site. Squeezie l'a fait, puis après, beaucoup de YouTubeurs ont suivi. Je sais pas si, je pense pas que tu aies fait une vidéo sur celui-là.
Mais j'en ai fait des vidéos sur ces sites-là.
C'est très possible. Mais en tout cas, voilà, grosse galère, et du coup, tu passes tout. J'allais commencer à regarder Le Seigneur des Anneaux avec ma meuf, et en fait, j'ai dit, bon, dis à Gandalf d'aller dans la salle d'attente, tranquille. Prends un café, Gandalf, tranquille. Et en fait, j'ai passé mon week-end à essayer de remettre le truc en marche, et alors moi, ça va, j'avais pas les thunes en jeu, et en plus, moi, j'étais acteur. C'est-à-dire que j'étais acteur de ma propre destinée.
Tout à fait.
J'étais pas comme toi, derrière un mec à vouloir le masser, lui donner des
souches. C'est terrible.
Mais du coup, je comprends la galère. Et juste pour revenir mini truc sur tout à l'heure, parce que je veux pas me faire incendier par toute la profession, 10 000 balles, ça dépend ce que tu en demandes, en fait. Si tu en demandes un design custom, si tu demandes un truc vraiment unique avec ton identité, si tu demandes que le design soit tout neuf et que ce soit pas juste un thème customisé, etc. Si tu veux en plus qu'il y ait des trucs de que ça supporte la charge, etc. Oui, là, va falloir mettre.
Non, mais d'ailleurs, j'avais aucun problème avec le fait d'avoir un thème tout fait.
Ouais.
Parce que pourquoi pas. Enfin, d'ailleurs, même je m'attendais à ça, mais juste, tu sais, enfin, la base, tu peux faire beaucoup de choses en partant de cette base-là. Mais là, il y avait le thème, genre, moi, je peux le faire, tu vois, je vais sur Wix.com.
Ouais. Et Wix, il aurait supporté la charge.
Bah oui, en plus, c'est ça. Complètement. Mais par contre, il m'aurait jamais rendu mon nom de domaine, c'est la différence avec Wix. Tu sais, genre, quand t'achètes un nom de domaine directement dessus.
C'est pas vrai.
Et tu peux jamais. Ouais, non. Ça m'est déjà arrivé pour un autre truc, ça.
C'est vrai?
Attends. Déjà, je veux pas chier sur cette marque-là, parce que c'est un super truc pour créer un site quand t'es de boulangerie ou j'en sais rien, moi.
Là, il back ses OP, là.
Sans aucune. Exactement, Michael. Désolé, Wix. Non, mais en vrai, je trouve vraiment Wix marrant quand tu veux créer un site sans compétences. Bref. Mais, oui, j'avais fait un site internet, du coup, avec Wix.
C'est honteux ou tu peux nous le raconter?
Oh, non, c'est, ça va, je vendais des coques iPhone quand j'étais étudiant.
Des bars?
Pas tellement.
Bah, non, mais genre, c'est.
Ouais, mais ça m'a payé mon loyer.
Tout,
ça m'a payé mon loyer, du coup, avec mon coloc.
C'est pas drôle.
Voilà. mais du coup, le nom de domaine, donc, j'avais acheté sur Wix. Et puis, au bout d'un moment, bah, forcément, Wix, ça suivait plus la cadence, donc j'ai voulu changer. Et ils m'ont dit, bah, non, c'est à nous, le nom de domaine. Voilà.
Et si tu le rachètes,
c'était en 2000.
Oui.
On se parle de 2012-2013, donc je suppose qu'ils ont changé ça, tu vois. J'espère.
Spécial. Mais non, mais le fait que tu aies eu un business de.
C'est mon premier business, ouais.
C'est incroyable.
Ouais. C'était. Je vendais des. Bah, en fait, à l'époque, tu sais, genre avoir la coque iPhone avec.
Customisé.
Avec le truc Game Boy et tout. Voilà. C'est du, en fait, c'est du dropshipping à 100%.
C'est ce que j'ai dit.
Mais à une époque, c'était 20 euros à la Fnac.
Personne ne fait ça.
J'ai acheté ça 1,80€ en Chine et puis je vendais ça 15 balles ou 10 balles, tu vois.
T'as tous les gens là qui font des formations dropshipping, mais vous êtes tellement en retard.
Ouais. Il faut vraiment que tu ouvres ton podcast, hein. Amixem, Amixem Dropshipping ou Amixem Business.
J'espère que je vais inspirer des générations d'entrepreneurs grâce à cette histoire.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Est-ce que, selon toi, toi qui suis un petit peu tout, niveau actuel, j'imagine, t'as peut-être moins le temps maintenant, mais est-ce qu'il y a une techno qui te hype un peu en ce moment? Tu as un truc où tu te dis, soit pour ta chaîne, soit pour toi en perso.
Bon, il y en a une pas du tout originale, c'est blockchain, donc je vais même pas, j'essaie de trouver un truc mieux. Mais, ouais, il y a la fusion nucléaire.
Putain, mais.
Pour le ramener chez moi, un petit réacteur de fusion nucléaire.
C'est une réponse.
Voilà. Non, mais je vais faire une vidéo à l'ITR, là. Bientôt. Et, bah, c'est techno folle parce que.
C'est quoi l'ITR?
Alors, en fait, c'est, bon, je vais résumer et peut-être dire des bêtises parce que j'ai pas encore fait la vidéo, donc je suis aussi toujours dans ce rôle d'apprendre pendant la vidéo avec les gens, donc bref. Mais en gros, actuellement les réacteurs nucléaires du parc nucléaire mondial, c'est de la fission nucléaire. Donc la fusion nucléaire, c'est une autre technologie qui est beaucoup plus complexe et qu'on maîtrise pas encore à 100%. Et en gros, il y a plusieurs pays qui se sont mis d'accord pour expérimenter et atteindre la maîtrise de cette technologie. Et il se trouve que le principal centre de mise en pratique, le premier réacteur de fusion nucléaire, il se trouve en France. Donc en gros, c'est une expérience qui dure sur 30 ans. Et à la fin des 30 ans, si ça marche, ils vont dire, bon, bah, c'est bon, maintenant, on en met partout. Donc c'est complètement fou. Et ça permet quoi? Ça permet de créer de l'énergie quasiment à l'infini. En gros, c'est le même principe qu'il y a dans le soleil. Donc c'est créer un mini soleil pour faire
pour faire simple.
Au lieu de péter un atome, ouais, on le fusionne.
C'est l'énergie dégagée par la fusion des atomes, mais là, je m'arrête là.
Okay.
Et du coup,
c'est pas l'histoire comme quoi, on savait le faire, mais on perdait de l'argent à le faire. Et en fait, tout le but, c'est d'arriver à le faire de façon économique, quoi.
Mais il y a certainement une recherche de business model là, mais c'est aussi qu'on n'arrive pas à atteindre la température.
On sait pas le faire. On n'a jamais su le faire. Non, c'est beaucoup trop bon. Faut atteindre des températures plus grandes que le soleil ou pareil que le soleil.
C'est ça.
Enfin, c'est hyper bon, le truc.
Et il n'y a pas de déchets, du coup. Donc ça, c'est quand même le gros problème du nucléaire. Donc ça veut dire, une énergie décarbonée plus pas de déchets à gérer derrière. Donc, potentiellement salut de l'humanité, en fait, globalement.
Et ça lève beaucoup de questions, quoi. Ouais. Si on a l'énergie illimitée, qu'est-ce qu'on fout? Est-ce que les gens continuent à travailler, vu qu'on peut envoyer des robots partout, faire le travail à notre place? Est-ce que si, est-ce que ça? Et donc, enfin, ça révolutionne complètement le monde. Si ça arrive, si on trouve la fusion, donc.
Et comme toutes les technos, ça fait peur, mais.
Demande-leur si on trouve ça, dans ta prochaine vidéo, tu leur demandes quand est-ce qu'on va le trouver vraiment. Ça
serait une date, donnez-moi une date. Après, on peut.
Un ETA, quoi.
Un ETA.
J'ai pas deux jours près.
Récemment, ce que c'était, ce truc ETA. Ah ouais. Terrifiant. J'ai vu ce truc toute ma vie, ETA, tu vois.
Attends, ça me dit un truc. Estimate time of arrival.
Exact.
Ouais. Okay. Ouais.
Mais effectivement, c'est le genre d'acronyme où tout le monde le dit. Et puis, si tu sais
donne-moi
pas, tu sais
un ETA.
Pas.
C'est que vous êtes parisiens, les gars, en fait, c'est tout. Nous, on n'a pas ça, je sais pas encore arrivé. Hein.
Et à Bordeaux.
ETA, peut-être.
Et alors là. Est-ce qu'à l'inverse, il y a potentiellement un truc.
Me débecte.
Mais non, mais où tu vois, où parfois t'as des technos où t'es pas là.
Ah, t'arrives pas.
T'es pas dans le train.
Ah ouais, c'est marrant,
les gens sont hypés dessus, mais
toi t'es pas là, quoi. T'arrives pas, quoi.
Ouais.
Attends, je réfléchis un peu.
Moi, j'en ai en tête.
Putain, c'est marrant, mais ouais. En fait, en gros, j'ai lu un document l'autre jour. Voilà, je lis des documents parce que je suis très instruit. Et c'était sur les technologies du futur. En gros, les technologies en 2030, les trucs qui vont exploser, tu vois. Et genre, c'est le truc qui me hype. Je lis, je fais, waouh, ouais, c'est incroyable, le futur, nanana. Donc, intelligence artificielle, véhicules électriques, fusion nucléaire, blablabla. Et il y en a une qui sonne bien, mais j'ai essayé. Je m'en balais, je sais pas pourquoi. Les nanotechnologies. Pourtant, sur le principe, tu vois, genre incroyable, mais c'est trop abstrait. J'arrive pas vraiment à comprendre les applications et du coup, j'arrive pas à rentrer dedans. Alors que toutes les autres me hype. Voilà.
C'est genre des mini robots qu'on s'envoie dans les veines ou des trucs comme ça.
Ouais, mais c'est pour moi, c'est, je sais pas.
C'est vrai que c'est
inapplicable ou science-fiction ou je sais pas, mais pour l'instant, j'y vais pas là. J'ai pas envie
tout
de suite.
Tu sais pas encore ce que ça va changer à ta vie. Perso,
ouais,
bah,
c'est sûr.
Mais ça peut nous augmenter et tout. Enfin, il y a plein de thèmes de science-fiction qui sont basés là-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'est des petits robots. Imagine, t'as des petits robots dans tes faisceaux et qui peuvent aller niquer certaines maladies, qui peuvent aller,
ouais, alors, cool. On crie un peu au blasphème dans le chat. Là, je crois que tu as dit quelque chose.
Mais... Pourquoi ils disent blasphème? Pourquoi disent-ils blasphème?
Parce que c'est le futur. Nanotech.
Ah, c'est le futur. Je
ça va sauver des vies. Et les gens pensent à l'heure actuelle que tu n'aimes pas la vie. Donc,
C'est vrai que je souhaite qu'un maximum d'êtres humains meurent. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre ça en YouTube Short. C'est cadeau.
Le titre de la vidéo.
Non, mais j'allais dire, il y a un truc. C'est un sujet un peu houleux en ce moment, souvent représenté par.
Je le sens arriver.
Un singe. Même, j'ai appris ça tout à l'heure, que même McFly et Carlito et Squeezie en ont fait un. Tu sais de quoi je veux parler.
Ah ouais.
Il s'agit des NFT.
Ouais.
C'est quoi ton avis sur les NFT?
C'est une technologie extraordinaire, contrairement aux nanotechnologies. J'en mets une couche, je suis horrible.
Ça, c'est, du coup, c'est celui de McFly et Carlito, hein. Donc,
alors j'ai pas trop suivi, mais oui, ils ont fait un NFT, du coup.
En fait, ça vient d'une blague dans une vidéo.
Avec Owen et tout.
Exactement. Avec Asher, ils l'ont appelé. En fait, ils l'ont fait pour de vrai. Un NFT nul.
Enfin, il est à combien, du coup, là?
Je crois qu'il est à plusieurs milliers d'euros.
Donc, il y a 4 éthers, donc, ouais.
4,2 éthers. Ah, c'est même bien plus que ça.
4, on est à 10 000 balles. Ouais, je connais le cours de l'éther par cœur.
Ils vont le verser à une asso. Donc le but, c'était le troll, finalement. C'est quoi, toi, ton avis, sur la techno NFT?
En fait, je trouve que c'est une techno qui va changer le monde, ça, c'est sûr. Mais en fait, elle est devenue populaire trop tôt et trop vite. Et du coup, elle a une image de merde, et ça, c'est dommage. Mais ça passera.
Comme souvent, en fait.
Ouais, ça passera, donc il n'y a pas de souci. Mais À notre faible niveau là, avec Space Fox, on a vraiment réfléchi à faire. Donc
vous avez un truc.
On a un truc NFT, ouais. On ne vend pas de NFT. Il y a pas de spéculation sur nos NFT. On n'essaie pas de faire de l'argent sur les NFT. On n'y gagne absolument rien. Mais on essaie de trouver une vraie utilité aux NFT. Et en fait, déjà de base, je suis YouTuber, donc si je fais un NFT, c'est d'ailleurs c'est toute leur vanne. C'est que ça n'a pas de sens. C'est complètement débile. Et c'est forcément associé à un type qui veut juste se faire de l'argent. Donc vraiment, c'est l'usage majeur. Majoritaire du NFT pour l'instant, c'est pas ouf, mais on a essayé de trouver un usage et on en a trouvé un. C'est qu'en fait, du coup, donc on a sorti des bracelets avec des morceaux de météorites de Mars et de la Lune.
Donc celui que t'as
donc ouais, voilà, je sais mon placement produit. Yes.
Donc là, c'est quelle planète ?
Ça, c'est complètement un morceau de Mars, tu vois. Voilà, j'ai un morceau de Mars autour du poignet. Yes.
Extrêmement stylé.
Vous voulez en acheter ? Il y en a plus. Forcément, ça, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler du projet, ça pose des questions. Tu te dis, attends, comment c'est possible d'avoir un morceau de la planète Mars? Donc, t'as un besoin d'explication, de vulgarisation, comment c'est possible. Et t'as un besoin surtout d'authentification et de traçabilité de la pierre jusqu'à où, comment elle est arrivée entre tes mains. Entre nos mains, puis entre les mains des clients SpaceFox. Et tout ça, on aurait pu l'écrire sur un bout de papier joli avec un voilà.
On va te promis.
Voilà, mais je vous jure, mais on a préféré faire un NFT qui est à la fois joli et artistique, c'est-à-dire que tu retrouves l'équivalent de ta pierre en version 3D qui tourne et tout, c'est stylé, c'est un peu un voilà comme les Polkamon, tu vois, dans le délire.
Ouais.
Et derrière, en fait, tu peux tracer ta pierre, donc tu vois en fait comme elle est notre météorite martienne est inscrit à la météorological, mais j'arrive jamais à le dire, Society, qui est un site américain qui répertorie tous les cailloux tombés du ciel. Et donc, du coup, tu peux tracer l'ancien propriétaire de la pierre, qui est donc Luc Labène, notre spécialiste interne, finalement. Et donc, t'as un truc à la fois joli, donc un titre de propriété numérique à la fois joli et fonctionnel, parce que c'est ton truc, ton authentification, ton espèce de diplôme, de certificat, je cherchais le mot. Et au moment où si tu veux vendre ton bracelet, bah c'est pas con de vendre le NFT avec, pour dire c'est vraiment à moi. Et à contrario, c'est un peu con de vendre le NFT tout seul, donc ça évite la spéculation. Ouais. Parce que si tu vends le NFT tout seul sans le bracelet, bah, tu peux toujours le faire, mais du coup, ça dévalue l'objet physique. Donc il y a un objet numérique, un objet physique qui fonctionnent tous les deux. C'est pas une utilité folle, ça va pas changer le monde, machin, mais on était super fiers d'avoir porté un
truc. C'est carré, ouais.
Ouais, et c'est sur la blockchain de Elrond, et c'est une, enfin du coup vraiment on a pu bosser avec Benjamin qui est le boss grâce à Owen d'ailleurs, tout est grâce à Owen. Dès qu'un YouTuber fait un truc avec de la crypto,
c'est grâce à Owen.
Et Asher du coup sur YouTube, et merci à lui, et du coup il nous a connecté avec Benjamin qui est le boss de Elrond, et c'était fou en fait de travailler avec ce milieu-là, c'était dingue.
Parce que toi, c'est pas ton métier de base. C'est dur de mettre en place ça dans une boîte.
On voulait pas faire un truc forcé. Il fallait que ce soit naturel. Tout ce que je viens d'expliquer, on était convaincus que ça l'était, qu'il y avait un vrai usage et qu'on se disait tiens, la NFT répond à un besoin. Ouais. Donc c'était pas compliqué de le mettre en place parce qu'on se disait tous, on le fait pas pour la mauvaise raison. Mais par contre, c'est tellement une nouvelle techno que t'es dans un flou artistique fou, et même l'interlocuteur en face, à savoir donc Elrond, ils ont des demandes de sociétés comme nous ou quoi pour des NFT ou pour d'autres trucs qui sont tellement hétéroclites, différentes, que du coup ils répondent à des problématiques auxquelles ils ont jamais répondu. Et en fait, le gars, pour pouvoir répondre à ta problématique, il est obligé de mettre des devs à lui dédiés sur le projet, alors que pour Elrond, on n'est rien. Donc j'y avais un gros sentiment de culpabilité aussi, en mode je suis face à un futur Steve Jobs, et je ponce son temps pour rien, faut qu'on arrête vite. Mais on est super content
le résultat final est trop bien. Et puis les gens étaient hyper hype. T'es comment sur les NFT toi, Benjamin, t'y crois un peu ou...
Ben justement, c'est tout à l'heure quand tu demandais est-ce que vous avez une technologie dont vous êtes pas trop
dans la hype.
Je suis pas dans la hype, je n'ai rien contre. J'aime bien le fait que pour les petits artistes, et même pour tous les artistes de manière générale, qui puissent se rétribuer avec des œuvres digitales comme ça, c'est numérique, c'est cool. Mais toute la spéculation infernale qu'il y a autour, et tous les gros trucs sur le Web 3 là, où t'entends parler du Web 3 dans tous les sens, qui est un web complètement décentralisé et tout, j'ai du mal à le voir, moi, à le visualiser, ce truc là. Et du coup, je critique pas, tu vois, je dis pas que c'est nul ou quoi que ce soit, mais juste, je suis pas emballé par le truc. Voilà, ça me laisse un peu de marbre. Donc je regarde, je spectate un petit peu. Toi, t'as le même feeling.
Mais c'est exactement ce que tu disais, c'est trop vite, trop fort.
Ça va se repéter la gueule.
De ouf. Après pour la version crypto, c'est bien.
Ouais, c'est ça.
Ça fait un projecteur de plus quoi.
Le truc c'est qu'il y aura trois survivants en truc où ce sera génial.
De ouf.
Ouais. Mais oui, oui, et à ce moment-là, ce sera cool, je pense. En fait, si les artistes peuvent commencer à revendre leurs œuvres pour des trucs, pour des prix honnêtes et tout, c'est bien. Enfin, après, on s'en fout de l'honnêteté des prix ou quoi que ce soit. Juste, moi, j'ai toujours pas passé cette étape encore du truc où j'achèterai pas un truc numérique, quoi. Enfin,
j'en ai, mais on me les a donnés, moi.
On te l'a donné, ouais.
Bon, en fait, YouTube, c'est là que j'étais surpris quand même, parce que YouTube, à Noël ou quoi, ils envoient, des en général des goodies ou des machins comme ça en mode super année, merci, vous nous avez rapporté beaucoup d'argent. Et alors, l'année dernière, j'avais une valise avec marqué mon blaze dessus, ce qui est très pratique dans la gare quand tu veux passer à discret.
Première chose qui a été faite était de mettre des stickers dessus.
Absolument. Oui. Mais en vrai, c'est sympathique, voilà. Et cette année, c'était un NFT dans un joli cadre et tu peux aussi le claim évidemment. Donc j'ai une artiste mexicaine qui s'appelle Valérie Montero qui m'a fait un NFT.
T'as la chance.
Je trouve ça trop stylé et le NFT est fou. Il est trop beau et je vais pas payer. mais pour qu'une boîte comme ça se mette au NFT, enfin tu vois c'est YouTube, c'est Google, mais ils envoient ça aux créateurs et tout, c'est dingue.
Twitter, ils ont fait un truc aussi avec les bulles de les photos de profil qui devenaient losange si jamais c'était un vrai NFT.
D'accord.
Parce que tout le monde faisait des clics droits copier-coller du singe là, donc forcément là.
Et récemment, un ami à moi m'a parlé d'ailleurs et je trouve ça, là ça m'a fait me dire ah tiens l'usage du NFT là-dessus c'est pas si bizarre. En gros, c'était un gros joueur de Hearthstone le gars et en gros il en avait marre qu'à la fin son immense collection elle valait rien. Ouais. Son immense collection, il a investi des tonnes de thunes et au final ça vaut rien. Et en fait il y a un équivalent Hearthstone qui est sorti avec toutes les cartes, tous les collectibles sont dans la blockchain et donc tu peux vendre éventuellement tes cartes, il y a un market pour ça et tout machin.
Ça je trouve c'est un super usage en vrai.
Et ça là pour le coup j'ai fait ah ouais là ça me parle, ça c'est cool.
Parce qu'en fait il y a un truc hyper mal vu dans les NFT par rapport au gaming, c'est que les gens pensent que c'est un truc qui va être payant en plus, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est tous les achats intégrés que tu as pu faire dans n'importe quel jeu actuellement, ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à l'éditeur du jeu.
Exactement.
Et là la seule chose c'est que la technologie va faire en sorte que même si la boîte coupe, même si Blizzard cool demain, tout ce que tu auras acheté dans le jeu continuera d'être à toi parce que ce sera figé sur une blockchain. C'est incroyable. En fait, si tu vas pas plus payer qu'avant, les gens vont continuer de dépenser ce qu'ils dépensaient déjà, mais ce sera sous forme de NFT et donc tu auras la propriété du truc même si le jeu cool. Quand même plus juste en vrai.
Ouais. Mais justement, on a un tweet, une question sur votre offre. Est-ce que c'est possible de vérifier physiquement sur le bracelet qu'il est lié à un NFT ou pas?
Oui et non, c'est possible parce que on considère le bracelet comme avec son packaging et dans le packaging il y a le lien avec le NFT, voilà. Mais c'est une grosse question qu'on a eue ça dans les derniers mois de la dernière ligne droite. En fait, le moule pour faire ça là, il coûte je sais plus 15 000 balles. Et si tu veux pouvoir faire un truc qui l'identifie et qui soit directement lié au NFT, il aurait fallu faire le nombre de moules qu'il y a de clients, ce qui fait exploser un peu le prix. Donc c'était un défi technique de faire graver quelque chose qui le lie directement avec le NFT. Donc effectivement, non, il n'y a pas de lien directement en fait avec le bracelet et le NFT. Mais ça viendra sur la deuxième série, mais c'était pas possible sur la première techniquement. À un moment donné, en fait, parce que ce projet-là aussi, ça fait 2 ans et demi.
Ouais.
Et à un moment, faut que ça sorte, tu vois. Et ça faisait partie des compromis qu'on a dû faire. Et ça fait un peu chiant, en vrai. Mais ça arrive sur les prochains.
Quand même, pour un premier lancement, c'était mes giga propres. Sur Merci. Space Fox, il y a une petite anecdote que les gens, ils connaissent pas forcément.
Vas-y.
Un petit drama.
J'ai peur. Ah oui!
Mais oui!
Ah oui! Ah oui, ah oui, ça. Moi, je suis mal à l'aise, ça y est.
Alors, je le connais pas, donc je suis tout ouïe, là.
Tu vas adorer.
Il y a un drama. Écoute-moi bien. Accroche-toi, Benjamin.
Allez.
Il y a un drama un peu entre moi et Maxime.
Ouais, il y a eu un malaise.
Il y a un petit malaise sur un truc.
Ah non, en fait, vous êtes invité pour régler pour votre linge sale là.
Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai accepté l'invitation. C'est hyper hyper chaud quoi.
Écoutez, non. Je vous salue, je vous regarde.
Non, mais en vrai, je me suis dit, si ça se trouve, les gens ils vont penser que vraiment on est des
amis. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Donc justement, mais je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu les coulisses et tout de ce truc là. En gros. Si je résume, tu me dis,
je t'en prie. Alors oui, en fait, hors caméra, tu m'as dit, est-ce qu'on peut parler de ça et tout? Je fais, mec, plaisir. Vas-y. Mais il y a eu un petit malaise entre nous et c'est trop marrant. Vas-y, parlons-en. Là, c'est la première fois qu'on en reparle.
Voilà. Parce que c'est des genres de trucs qui normalement est hors de la scène, quoi. Mais comme entre guillemets, s'il y avait aucun souci au final, ben, on s'est dit que ça pourrait être rigolo. En gros, je vous résume.
Ouais.
Au moment où tu bosses sur Space Fox, où tu t'apprêtes à bientôt lancer.
Un mois avant peut-être.
Moi, je viens à la Redbox.
Yes.
On vient faire un tournage
yes.
pour ma chaîne une vidéo où on pirate ta webcam.
Yes. Et la vidéo sur ma chaîne où tu...
Non, ça c'est plus tard.
Ah, c'était plus tard, ok, pardon. Oui.
Donc là, c'était vraiment juste un tournage okay. qu'on faisait ensemble.
Ok.
Donc j'arrive à la Rainbow, c'est tout. Moi, à ce moment-là, je découvre. C'est-à-dire que je suis à Disneyland et voilà, et enfin tout et tout. Tu me fais un tour des locaux. Et puis à un moment, on arrive dans la salle du projet secret.
Bien sûr.
Et puis, Maxime me raconte tout le projet.
Toute la strate de lancement, ouais.
Exactement. Ouais. Ils sont en train de se voir, les prochains visuels, ouais. les pulls, etc. Incroyable. Et surtout que moi, je te dis, en plus, nous, on est en train de bosser sur notre premier merch.
Ouais.
Alors à ce moment-là, je ne me rends pas forcément compte de la galère dans laquelle on est en train d'essayer d'aller, quoi. Clairement.
C'est vrai que c'est galère.
Voilà. Nous, on était en mode, oh, on va torcher un truc en quelques semaines. Vous, ça faisait 2 ans.
Ouais.
Énormément de travail, de personnes, etc. Donc, je suis en mode full naïf, totalement. Et je découvre tout le projet, tout incroyable. Et, comme tu le dis, tu me parles de ta strate de lancement.
Ouais.
Strate de lancement qui était, comment tu la décrirais?
Alors, très rapidement, en gros, j'ai caché des easter eggs dans toutes les vidéos depuis 1 an sur ma chaîne. Et toutes les easter eggs forment une sorte d'escape game ou une chasse au trésor qui mène à les gens qui arrivent gagnent un vol 0G, ce qui est plutôt cool, et associé au lancement. Donc au lancement, il y avait à la fois un lancement d'une marque, mais aussi un truc à donner aux gens, c'est-à-dire voilà, il y a des choses cachées sur la chaîne, allez-y pour remporter un truc de ouf.
Concept extrêmement stylé, on est bien d'accord. Moi, je fais son âge là, je rentre chez moi. Et puis, au niveau du timing, c'était un moment où, allez, quelques jours plus tard, moi, j'étais censé faire la pub de mon...
Annoncer ton projet.
Voilà, ouais. Annoncer mon premier merch, etc. Ouais. Donc, ça s'appelait For Rich, un truc. On était très contents de ce truc-là.
C'est si vieux que ça, tout ça? Ah ouais, d'accord.
Ouais,
ça,
même timing.
Ouais, d'accord. Ok.
Donc, 2018.
Ouais, un truc comme ça. 18, ouais.
Yes.
Et à ce moment-là, moi, il y a une journée, 2 journées qui passent. Moi, je fais un rendez-vous aussi avec mon collègue avec qui on bossait sur ça. Et on est parallèlement en train de se dire, ça va pas trop ce qu'on a préparé pour cette marque et tout. C'est trop dommage. On joue pas sur les trucs que nous on aime bien. Ouais. On joue pas sur le côté CTF challenge de hacking, etc. Et à ce moment-là, pendant cette discussion,
j'ai
littéralement la même discussion, mais sans m'en rendre compte, hein, que j'ai eu avec Maxime et quelques jours avant. Tu sais, il y a ce moment dans le cerveau où tu penses avoir des idées originales, tu sais, tu les alignes les unes à la suite des autres.
Tu les as surinées la veille.
Et exactement. Et en fait, il y a un lien évident et direct avec une discussion.
Tu sentais bien le truc?
2 ans plus tôt. 2 jours plus tôt, pardon.
Ouais, 2. Moi, c'est tous les jours avec Mr Beast, là. Mais vas-y, vas-y.
C'est ça. C'est très gentil. Tu m'accompagnes dans ma sauce. Donc, on se dit, ok. On refait un truc, on va organiser un challenge. On va l'appeler, on va dire que c'est une chasse au trésor.
Ah oui, je vois le.
Et en fait, il y a des trucs cachés sur le site avec des étapes et tout.
Et à la fin, t'as un vol en 0G.
Et en gros, tu dois utiliser des commandes de Linux et tout. Et je pense que sur le format, évidemment, ouais, on est dans
le
notre
jeu,
délire.
C'était pas le même jeu.
Voilà, on est dans notre délire, mais fondamentalement, tu prends un petit peu de recul. Je te dis quoi.
Alors moi, de mon côté,
on lance la vidéo.
Excuse-moi. Vas-y.
Le truc part. Nous, on est trop contents. On a bootstrap notre petit jeu en 2 jours, tu vois. SpaceFox n'est pas lancé. Il faut le prévoir.
Oui, toujours pas. Non, pas encore.
C'est très important.
Et là, il regarde d'ailleurs parce qu'il vient un peu de se faire niquer son idée, tu vois. Donc,
alors, je te passe la main.
Et bien, moi, en fait, du coup, je regarde tes vidéos. Il y a toujours un peu de latence. Tu sais, genre, je sais pas, la vidéo elle sort. Peut-être je la regarde le lendemain ou le surlendemain, je sais pas. Et vraiment, annonce de projet, mais normal, tranquille, très bien, hyper bien. Et en fait, dans la vidéo que tu tournes dans un certain studio, je ne sais pas lequel, donc tu vois, t'as vraiment le cadre qui est là, et il y a un cut, et il y a l'insertion dans le montage, ça se voit,
oui,
de 1 minute de chasse au trésor. Tu vois, genre, je sais, je me dis, mais c'est pas possible, oh, ça me dit un truc, je suis sûr que ça me dit un truc. Et ça faisait une semaine qu'on s'était vu du coup. Et donc, déjà ta marque était déjà lancée avant, donc il y avait aucun problème là-dessus. On lançait une marque en même temps, voilà. Ta vidéo était même déjà tournée, et il y a une insertion par-dessus. Oui. Et là, je fais, oh non, c'est terrible, c'est terrible. Et le truc qui me faisait plus chier, c'est que on était super contents de notre idée, et que ça faisait 1 an que je planquais des trucs sur ma chaîne, et que en fait, tu lances une marque de vêtements avec une chasse au trésor. Et peu importe, en fait, faut comprendre avec les gens, pour les gens, c'est que, je veux dire, je sais pas combien t'avais d'abonnés à l'époque ou quoi.
Ouais.
Mais peu importe la taille,
la
l'audience,
portée,
etc.
Qui aurait été faible.
Ouais, juste... en fait, dès que tu sors un truc, si quelqu'un de 3 abonnés et demi l'a fait à l'autre bout du monde, t'avais pas 3 abonnés et demi, t'en avais beaucoup plus. tu as des commentaires de plagiat Jean-Michel. Et donc, vu l'audience que t'avais, je me suis dit, mais lancement Space Fox, tous les commentaires, ce sera plagiat mi-code. Et là, je me tirais une balle, littéralement, tu vois. Ça fait 2 ans, il y avait trop d'envie, trop de motivation. Et donc, je t'ai fait un message audio où je t'ai dit...
Tu m'as envoyé un message Twitter.
Michael mon bureau.
Il est passé en mode AmixM Daron.
Je me souviens plus de la conversation après. Mais après, si, on s'est eu au téléphone.
C'est ça.
Et je t'ai dit, genre, est-ce que tu te rends compte?
Tu m'as envoyé le message.
Ouais.
Moi, je suis en mode... Je suis au top, top du monde, hein. Moi,
oui.
À ce moment-là,
mais j'ai compris l'innocence
de rien. Je ne me rends compte de rien.
Moi, je vois un message. Il a pas fait exprès.
De ouf. Mais j'ai senti vraiment le premier appel. Hein.
Ouais.
J'en ai pas. Genre le c'est redescendu instant. Hein. Il y avait ma femme qui était à côté, qui comprenait pas. Tu sais, genre je lui explique de loin et tout. Elle était en mode ça me paraît évident. mais non, mais franchement, dès fin du premier appel, j'avais compris que c'était une maladresse de malade.
Parce que en fait, moi, je vois le premier message. Dis-toi, je viens de. Je commençais YouTube, tu vois, donc c'était la première fois que je tournais avec d'autres mondes et tout. Là, le tournage, c'était trop bien passé. On fait un lancement et tout, ça se passe bien. À ce moment-là, moi, je suis au top de ma vie.
Ah ouais,
je vois Twitter, je vois un message de
un premier pavé peut-être.
j'appelle mon collègue, je dis, mec, on a fait une connerie.
Et tu réalises à ce moment-là que ouais, c'est maladroit de ta part.
Et là, je me dis, mais j'avoue en vrai.
Ouais.
Surtout, en fait, on va revoir la vidéo. On se dit. Putain, c'est vrai qu'on dit vraiment genre chasse au trésor.
Ouais.
Enfin, tu vois, là tout d'un coup, j'ai un défocus. Tu sais, on était dans notre tunnel.
Ouais.
Et là, j'ai un défocus en mode qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait?
Après, t'avais pour toi quand même que tu planquais des trucs depuis un an quand même. Donc,
ah oui,
pour la maternité,
oui, absolument. Absolument.
Et là.
Mais fais chier quand même.
Et là, dans ma sueur, je me dis ok, du coup, je pense que je vais essayer de l'appeler pour qu'il.
Trop bien.
Tu vois.
Vraiment, dès le premier appel, il y avait plus aucun problème en vrai. Mais. Mais forcément, de mon point de vue, je pense que tout le monde peut le comprendre. Ouais, il faut avoir la personne de vive voix en mode, tu vois, enfin normal quoi. Mais non, ben voilà, on est toujours là, est sur Underscore et regardez tout va bien.
Moi, je peux vous dire que ça m'a vacciné.
Dans la vache.
Maintenant, je fais très attention.
Et maintenant, il dit plus rien. Il dit plus rien à personne. Il garde tous ses projets pour lui.
C'est ça. Non mais alors pour le coup, moi, il y a zéro secret défense, jamais. Et parce que full confiance et tout, tu vois.
Donc, alors, ça peut te retomber dessus, du coup.
Et maintenant, je fais un peu plus gaffe depuis que je t'ai croisé.
Non, mais voilà, c'était franchement une expérience assez ouf.
Mais tu vois,
c'est bon.
J'ai un peu là quand même.
Mais j'ai l'impression que ça va. Vous avez enterré la hache de guerre. C'est bon, pas d'octogone dans le studio.
Non. Pas en caméra.
En tout cas, ouais, c'est ça. C'est fabuleux. Après l'émission, petit règlement. Pour finir, on a une petite question sur la sortie de nouveaux bracelets éventuels. Est-ce que tu aurais une exclue
Oh là là, mais faut que je me concerte avec mon comité d'administration. du coup, ça veut dire oui. C'est si le gars réfléchit, c'est que oui. Non, mais de toute façon, genre on s'éclate trop dans ce projet. Et en fait, ouais. De toute façon, c'est les réunions avec, c'est des potes. Tu vois, Maxime et Joey, c'est des potes, et donc du coup,
tu nous as pas donné de date là.
Quand on se fait des trucs, c'est qu'il faut qu'on s'amuse vraiment, tu vois. Et sur les bracelets, alors, je pense qu'on s'amuse beaucoup. Et on a des, enfin, genre, franchement, les gens sont hypés de bosser sur ce projet-là. Et du coup, on a accès à des gens.
Fin avril 2022 sur le site.
On a accès à des gens, qui aiment bien le bracelet, donc c'est trop bien. Non, mais du coup, vous parlez du réassort ou de nouveaux bracelets?
Ah, ça, c'est le réassort.
Ah oui, il y a des réassorts, il y en aura.
Okay.
Oui, il y aura des réassorts. Alors, les gens qui ont précommandé, parce que là, on en est là. Je peux pas vous donner de date, mais ça arrive et je veux dire, les lignes de production sont en état de marche. Il n'y a pas de couilles dans le pâté pour l'instant. Donc voilà, ça avance tranquillement, mais je peux pas donner de date. Et ensuite, il y a les précommandes qui arriveront, mais je n'ai pas de date à vous donner encore, tout simplement parce que, faut acheter des bouts de Mars, quoi. Plus le Covid qui fait qu'il y a des pénuries de matières premières partout.
Mars a fermé ses frontières avec le Covid.
Voilà, voilà. Les Martiens, ils sont chauds.
Galère, ouais.
Ils sont très, très chauds.
merci énormément, Maxime.
Avec plaisir.
On va maintenant passer, parce que le temps presse là quand même.
Si vite.
Et oui. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission. On va,
je crois qu'Augustin, il va venir ou pas?
Ouais, on va accueillir Augustin, exactement, qui veut nous rejoindre en petit sidekick supplémentaire.
Bah, allons-y.
Et on va faire un petit jeu qui s'appelle les pires startups.
Avec plaisir.
Ça, c'est la journée des pires.
Oh, wow.
Jingle. On accueille un petit chroniqueur supplémentaire de dernière minute. Ça n'était pas prévu.
J'étais dans les locaux et on m'a appelé.
Bah voilà. Tu apparais. Il paraît qu'on peut te summon comme ça et.
Ouais, j'apparais.
Et tu t'apparais sur les plateaux pour faire des jeux.
Ça me fait bizarre de retourner derrière des caméras. Ça fait très longtemps.
Mais oui, parce que on te présente en deux. Tu as bossé chez Pierre Cross, chez Romain Lannery.
Exactement.
L'homme qui murmure alors il est YouTubeur.
Tout à fait l'ombre de ton YouTubeur préféré. Uh-huh. Je sais pas, il y a d'autres gens qui ont dû le dire.
c'est pas mal.
C'est une bio Twitter.
C'est ça.
C'est vraiment ça, bio. C'est vraiment, vraiment.
Ah oui?
Oui.
Ah.
Parfait. Le principe, il est simple. Sur l'écran, vous allez voir des concepts de start-up. Il faut retrouver si cette start-up existe.
J'adore.
Ou a existé. Ouais. Ou bien, si elle provient de l'imaginaire malade de notre équipe.
Je tiens à dire que j'ai écrit beaucoup de quiz comme ça.
Peut-être que tu
vas dire, je me suis dit, c'est pas drôle, c'est forcément lui qui a écrit ça. C'est son taf à la base.
Il va peut-être être plus fort que vous, en tout cas.
Je tiens à dire que je suis passé dans beaucoup de startups aussi en tant que freelance. Et donc, okay. J'en ai vu un paquet.
Ok, ça va être dur, Maxime. Accroche-toi.
Okay. Non, mais je tiens à dire quelque chose.
Est-ce qu'il y a un truc à gagner?
Moi, je tiens
un gage. Un gage, un truc à gagner.
Pour l'instant, il n'y a pas de gage.
Des formations professionnelles.
Mais oui, c'est ça.
Toi, on va pas se raser les cheveux, là, c'est bon.
De toute façon, vous êtes en équipe, ok? Vous êtes tous les trois dans une équipe. Il faut que vous vous mettiez d'accord sur la réponse.
Ah oui.
Est-ce que vous vous débattez, voilà, et vous me dites, est-ce que vous pensez qu'elle existe ou pas? C'est ça?
Ok.
C'est parti. La première start-up s'appelle Pets Airways. C'est une compagnie aérienne qui est uniquement réservée aux animaux.
Complètement. Vrai.
Est-ce que ça existe?
Je connais la pub, je connais tout. Je rigole pas.
Effectivement.
Est-ce que c'est vraiment ce nom-là? Parce que tu sais, peut-être que l'auteur, il change un peu le nom.
Le logo est vert.
Okay. Tellement sûr, okay. Il est connaisseur.
Ça part là-dessus.
Je crois,
et effectivement, okay. Bravo, elle existe. En fait, c'est pour éviter que les animaux voyagent en soute.
Oh, oui, c'est horrible.
Et qu'ils soient blessés ou perdus, voilà, pendant les voyages dans les avions classiques. Évidemment, les maîtres n'accompagnent pas leur animal.
Non. Évidemment.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, genre, tu regardes la soute où il y a tous les animaux, c'est flippant. Genre, t'as juste pas envie.
Ouais. Alors, c'est 200 balles pour un New York-Chicago quand même.
Ouais, okay. Donc, et tu peux mettre quoi?
Il arrive 3 mois après toi, t'es déjà, en fait, t'es déjà rentré de vacances.
Et tu peux mettre quoi? Est-ce que ça va du chien à l'éléphant ou il y a quand même un ratio, tu vois?
Je sais pas.
Attends, ils ont des jets privés?
Alors non, c'est pour la pub, hein, mais en vrai, c'est un A300. Okay. C'est un A330, tranquille.
Okay. Startup suivante. Pour le coup, celle-ci, elle s'appelle...
Le logo est violet.
s'appelle My Missing Voice. C'est un service téléphonique qui imite ta voix pour les appels relous. Non. Désolé, mamie.
Trop marrant.
Ok.
Alors moi j'aurais dit
non.
Comment? Attends, My Missing Voice.
Il faut qu'ils appellent chaque personne et qu'ils récupèrent les échantillons de la voice de chaque personne et qu'ils en fassent.
Ouais, c'est un peu long. Ouais.
T'as des trucs de podcast qui synthétisent ta voix. Ça, ça existe.
Ouais, mais c'est coûteux, non?
On sait le faire.
Enfin. Et qui va appeler ce service juste pour se débarrasser de sa grand-mère? Enfin, si...
Oula. C'est pas le même service.
Non, mais enfin, je sais pas. Moi, je dis non, mais.
Moi, je dirais non aussi. Je trouve que la description, tu vois, genre, je sais pas.
J'aime bien.
Mais le titre est cool. Ouais. Et en fait, le nom me fait croire que ça existe.
Exactement. Le nom est grave bien.
Ouais, Pets Airways, le nom était.
Attends, j'ai envie de dire que ça existe.
Moi, j'ai envie que ça existe aussi, en vrai. Et je trouve le nom sonne bien, quoi.
Allez-y. Moi, c'est hyper dégradant pour ton équipe, du coup, parce qu'on se dit qu'ils sont pas capables de trouver ce nom-là. Impossible.
Ok, votre consensus, c'est
que ça existe. Moi, je dis
non,
que ça
c'est pas un consensus du tout.
Allez-y, avec votre consensus. Non, on va te faire une manière de consensus.
Non, mais c'est la démocratie. Vous pensez qu'elle existe?
Oui.
Eh bien, je vais vous donner la réponse. C'est faux. Ça n'existe pas.
Oh là là.
Bien joué à l'équipe.
C'est totalement inventé. Et mon équipe est très forte.
Mon équipe est incroyable.
Bien joué.
Startup. On décide un truc pour la prochaine ou
non. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire.
Okay. Enfin, pardon. Platypus, c'est le nom de la startup suivante, un jet ski sous-marin.
T'es calé en sous-marin.
Ça, tu connais les gadgets là, très cher.
Vous mettez une pression énorme.
T'en as parlé d'ouf.
Un jet ski sous-marin.
C'est pas le truc, tu sais, où tu vas un peu sous
le dauphin là.
Ah ouais.
Ça s'appelle pas Platypus. Hein.
Ah.
Enfin, je crois pas. Hein. Pour moi, je vois ce truc là.
Mais c'est quoi un jet ski sous-marin? Ça marche pas.
Bah c'est comme un jet ski mais genre qui va solo quoi.
Non mais c'est sûr que ça existe.
Moi je pense
que
ça existe de ouf.
Mais Platypus quoi. Non, franchement, il faut qu'il contacte son équipe pour trouver un nom parce que
en fait, j'ai envie de voir ce que ça donne.
Non, si c'est sûr ça existe. Si ça existe pas, il y a
Non, c'est sûr.
Le monde est nul.
C'est à mon avis, c'est une version autre que le dauphin là.
Exactement. C'est ça en fait, je pense. Ouais.
On a consensus là ?
Ouais, 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 ça existe, ouais.
Non, non, on est tous d'accord.
Ah ouais, 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 ouais,
on peut le célébrer parce que c'est rare.
Eh bien, vous pensez que ça existe ?
Oui.
Alors qu'en fait, ça existe.
Bah oui, c'est sûr.
Yes.
Et oui. Ça permet de naviguer en surface ou sous les eaux jusqu'à 1,5 mètre de profondeur.
C'est un pédalo sous-marin.
Absolument.
C'est pas un jet ski.
Complètement.
C'est archi pour.
T'as les sandwichs en triangle, ils sont vachement moins, du coup.
Ils montent un peu sur la marchandise. Deux moteurs électriques, vitesse de 14 nœuds en surface, 3 nœuds seulement sous l'eau.
Mais c'est un bateau avec le truc dessous, en fait.
Mais ça représente aucun intérêt d'aller vite éclater juste la gueule.
Alors,
comme ça,
j'ai fait du scooter sous-marin.
Oui.
C'est une techno qui existe et c'est un des meilleurs souvenirs sous-marins de ma vie.
Bah, j'ai rien dit.
Après, j'ai fait que du tuba.
Je pense le style pour le coup.
Et t'as fait du vrai sous-marin aussi d'ailleurs.
J'ai fait du vrai sous-marin.
Mais c'était moins bien.
Ah, c'était exceptionnel, non, c'était exceptionnel.
Ok.
Mais c'est être enfermé 3h30 dans une cabine téléphonique allongée quand même. Tu vois, en termes de
vol. Ouais, c'est pas.
Donc l'expérience, voilà. Mais trop bien.
Mais Platypus existe en tout cas.
Marque de quel pays? Startup d'où?
Je ne sais pas. Alors là, tu m'en
pas grave. Parce qu'avec un nom pareil.
C'est un pays, oui. Platypus, non? C'est une nationalité. Hein.
Quoi. Mon dieu.
Startup suivante. Alors ça va être dur à dire. Restdating, un site suédois pour partager ses restes entre célibataires.
Comment ça, ses restes?
Ben, de bouffe, quoi.
Ah oui, parce que moi j'entendais autre chose.
Non, pas de décès.
Oui.
Non, non.
Ah ouais,
je suis parti trop loin.
C'était malade.
Un site suédois pour partager. Mais comment ça, c'est reste?
Est-ce que c'est reste de frigo, quoi?
Ouais, mais je comprends pas.
Tu fais ça entre colocs potentiellement. Ouais, là, c'est entre célibataires.
Ah, moi, je pensais plus reste en mode doggy bag, tu sais. Tu sors.
Ah oui, c'est ça. Pareil, je cherchais à savoir. C'était ça.
C'est le pire prétexte pour dater.
Mais c'est horrible. C'est vrai, en fait, il me reste ça dans mon frigo, on se date et on le mange.
Je pense que
toi aussi, je peux te prêter, les trucs.
Rencontrons-nous à 18h.
Moi, il me reste des gnocchis.
En effet, l'impro.
C'est pas une vanne.
C'est encore mieux de ramener quelqu'un à McDo, je pense. Enfin, je veux dire, le date McDo.
Je pense que c'est pas forcément date, hein. Ça peut être pour se prêter du sel, quoi.
Mais pourquoi entre célibataires?
Ouais, c'est ça. Les couples mariés, ils ont pas le droit de manger les restes des célibataires.
Parce que.
J'ai l'impression que.
J'avoue. Ça fait.
Non, moi,
C'est faux.
Ah, brief de. Moi, j'hésite à dire oui, en vrai. Hein. C'est tellement improbable que
je sens que c'est un Google Trad. Hein. Je te dis.
Moi, je dis. On n'a pas
pensé. Je pense que le célibataire, il est de trop, en fait.
Allez, je vous suis, mais je pense quand même qu'au fond.
Eh bien, vous pensez que ça n'existe pas. Et en fait, ça a existé.
Oh non.
Ça n'a plus de trace aujourd'hui.
Tu m'étonnes.
Voilà, c'est ça. Le principe, littéralement, partager ses restes avec un célibataire. On pouvait chercher les ingrédients manquants dans les restes des autres et saisir les siens.
Okay.
Puis c'est parti, quoi. Ça fait des rencontres, quoi.
Okay.
Ouais.
Quand je dis qu'il y a des startups vraiment éclatées qui ont vu le jour, c'est un truc de malade.
Et on est qu'au début.
T'avais raconté ce qu'il y avait ici avant comme startup ou pas?
Non, mais on peut le raconter. Attends, je le rajoute. Bon, ben vous savez que ça existe par contre.
Ah oui, tu le rajoutes, mais elle est.
Je ne dirais pas le nom parce que c'est pas sympa.
Non.
Mais en gros, c'est une application qui t'aidait qui était censée aider les conducteurs de voitures à se concentrer. Et pour ça, ça bloquait ton téléphone. Et alors, il y avait écrit top 3 des bugs qu'on avait sur un tableau blanc ici. Il y avait écrit ça. Premier bug, ça bloque Maps et WhatsApp. Et Waze.
Détection de base à la réunion de leur genre de l'ouverture de la boîte, quoi.
Oui.
Tu fais une startup comme ça, techniquement, il n'y a rien. Enfin, genre, le produit, il peut être répliqué fois 10 milliards.
Mais ça s'appelle le bouton éteint, en fait.
Oui, voilà. Non,
mode
c'est
éclaté,
avion. C'est éclaté.
Je pense que c'est pour les entreprises, pour les routiers, pour les empêcher. Enfin, voilà, c'est un peu.
Ok.
Startup suivante, elle s'appelle Dog ID. Et c'est en fait un Touch ID, mais pour chien.
Mais ils ont pas d'iPhone, les chiens.
Ben, il permet au chien d'ouvrir tout seul la porte de la maison. Et voilà, ça fonctionne avec le museau du chien. Et
quoi?
C'est pour filtrer, en fait, les animaux qui vont entrer.
Parce que ça existe littéralement, en fait. Attends, je pense que vous êtes allé jusqu'à faire un faux site, en fait.
Ils sont capables. Par contre, il y a un vrai truc. C'est pas la truffe où ils ont une empreinte digitale où chaque truffe est différente entre tous les chiens?
J'ai pas de
poste. Je dis peut-être une dinguerie, hein, mais.
Je sais pas. Alors.
Là,
Ça, c'est tout à fait crédible ce que tu dis.
Mais par contre, je vois pas le chien appuyer sa truffe sur un truc.
Ils ont fait un Wix.
Il y a moyen qu'ils aient fait
le fait qu'ils nous montrent un
prévu. Ouais, je pense pas que c'était prévu.
Ou alors c'est un piège, tu vois, genre je sais pas.
Ou alors ils se sont trompés, ils ont balancé le site trop tôt.
Oui, c'est ce que j'allais dire après.
Parce que Micode a l'air de
c'est on a un nouveau réel dans cette émission.
Il est très fort.
C'est vrai, non mais
c'est vrai qu'il y a un nouveau réel qui était en formation quand je suis arrivé tout à l'heure.
Ah.
Donc c'est
Non, mais du coup on sait pas, en fait.
Ça nous a complètement brain.
De ouf.
C'est vrai que la page est apparue un peu rapidement. Ça ressemble plus à une erreur de leur part.
Mais il y a truc de la
truffe. J'entends se marrer derrière.
Alors qu'ils vont être virés.
Par contre, je veux savoir si le truc de la truffe, c'est vrai, parce que il me semble que c'est possible. Qu'il y ait une empreinte digitale de truffe.
J'attends une réponse.
Non, mais ça, c'est très crédible comme.
Souvent, quand je vais inscrire mon labrador pour lui faire un passeport à la mairie, il met sa petite dans l'encre et après, non. Vous dites quand je...
Cette start-up, est-elle vraie ou est-elle fausse?
Elle est vraie.
Allez, consensus.
Oh là là, c'est
mesdames
fou.
Mesdames et messieurs, je vous réponds.
C'est vrai.
C'est faux.
Oh non, non,
ça n'existe pas.
C'était votre
aïe, 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 le brain.
On les a entendus rire.
Le brain, incroyable.
Ouais. Oh, le brain,
et
bien joué.
En fait, attends.
C'est un witch ou pas?
C'est pas nous qui l'avons fait. Dog ID, en fait, c'est la plateforme belge pour enregistrer son chien en ligne.
Oh, bien joué. Tellement bien joué.
Ok. Rien brain. À dire.
Et pour répondre à ta question, effectivement, d'après le chat, le truc de la truffe unique existe. Donc, il y a peut-être un marché pour quelqu'un qui veut lancer ça.
T'as des drôles de connaissances quand même.
Ouais, je sais pas d'où je la tire. Hein,
Yuki, c'est toi.
Startup suivante, elle s'appelle Ring.
Rink.
Rink. Non, Rink, pardon. Rink. J'étais en mode, mais oui, c'est Amazon. Non, c'est Rink. Quoi? Un service de livraison de bouffe qui te livre aussi les épluchures pour que tu fasses genre, c'est toi qui as cuisiné.
Ah, pour les flemmards. Genre en date, regarde, c'est moi qui cuisine.
Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est la pire des sous-merdes si tu dis à ta meuf, regarde, les épluchures sont là, c'est moi qui ai cuisiné. Non, c'est n'importe quoi.
C'est un petit bonus pour que.
Moi, j'ai.
Alors qu'il y a les emballages Picard,
ouais.
Quoi.
Ouais. Moi, j'y crois pas.
Non.
Par contre, c'est vraiment si. Je veux savoir le chiffre d'affaires.
Tu vas peut-être voir le site, du coup.
Alors. Non, ça n'existe pas, ah, d'accord, oui. D'accord. Voilà, donc je vous ai dit des cerveaux malades hein, principalement dans cette équipe.
Absolument.
Des célibataires, beaucoup de célibataires.
Peut-être. Startup suivante, elle s'appelle Old Sod, une entreprise qui vend des mètres cubes de terre irlandaise pour avoir un petit bout d'Irlande mais chez soi.
Ça existe, c'est sûr, hein. Ça existe.
Je l'ai vu ça.
Non mais. Ouais. Ah, tu l'as vu?
Tu comprends pas avec le truc de, tu sais, tu deviens duc de machin.
Si, je crois que c'est ça, ouais, je crois.
T'as un lopin de terre, ouais. Et tu deviens lord.
Et souvent, c'est très faux d'ailleurs.
Tu te livres des mètres
là,
carrés,
c'est vraiment,
des mètres
la terre
cubes.
Chez toi, quoi.
C'est sûr, ça existe. Moi, je veux y croire.
Ouais, bonne je me dis.
Bonne terre d'Irlande.
La bonne terre.
Tu livres bien de la terre de Mars?
Oui, absolument. Je vends des cailloux.
Non,
je vends des cailloux.
Possible.
Moi, je me dis que la terre irlandaise, c'est de la cendre volcanique. Donc, c'est pas la banlieue de Fontainebleau.
Oui, on peut pas trop te mentir sur la gueule de la terre.
Ouais, elle est noire et elle a un style, tu vois. Okay. Donc ça peut peut-être avoir du sang.
Bah, je trouve ça stylé.
J'étais étonné de voir que la terre était noire là-bas. Voilà, et je m'en rappelle quoi.
Un gouffre sans fond de savoir.
Ils sont chauvins, je me dis, tu vois, genre. Possible. Hein.
On a fait un sondage justement. Je suis curieux de savoir l'avis.
Demande l'avis du public.
L'avis du chat.
On demande l'avis du public. On suit le chat.
Après ils ont Google.
Oui. Alors ils rappellent. Oui.
Oui, c'est vrai.
En effet.
Bah oui, mais on était plutôt là-dessus.
De toute façon, on était là-dessus, ouais.
Eh bien, ouais. Bon, bah, effectivement, ça existe. Bravo.
Incroyable.
En fait, ils envoient ça aux États-Unis où il y a des millions d'habitants qui tiennent à leur origine irlandaise, en fait.
Mais j'ai compris, islandaise, je dis que de la merde.
Ah, mais c'est pour ça que je comprenais pas. En fait, j'ai dit oui parce que je me suis dit, bon, il a beaucoup voyagé, d'accord. Mais j'étais là, Irlande, volcanique, j'étais là.
Mais les trois géologues étaient dans le chat, ils se sont vus mourir, les types.
Coup dur.
Terrible.
Alors, c'est pour, je cite, aménager leur jardin ou se faire enterrer dans la terre de leurs ancêtres.
Oh là là.
Livraison en moins d'une semaine.
Ah fort. Et t'as donc, combien de volume?
Alors je ne sais pas.
De quoi t'enterrer?
C'est en mètre carré. Oui, c'est ça.
C'est en mètre cube là.
Et ils vendent aussi de quoi faire pousser un gazon irlandais.
Ah.
Ou des trèfles.
Ah ouais.
On est hyper au point sur la sur la vente. La dernière startup.
Allez.
Il s'agit de Mialbot, une IA qui répond automatiquement au mail.
Ouais, c'est sûr.
Est-ce qu'elle existe ou pas?
Mais il y a l'histoire du mec là récemment qui a automatisé tout son boulot.
Alors tu ne valides pas le mail, hein. C'est-à-dire qu'il est envoyé automatiquement.
C'est sûr. Ah. Avec GPT-3 là, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment, c'est tellement convaincant les trucs, ça comprend tellement le texte d'entrée et pour chier un texte de sortie incroyable. Moi j'y crois dur comme fer.
En français, GPT-3 et tout.
Tu peux le mettre en français si tu veux.
Ah mais je sais pas ce que c'est GPT-3.
Ah GPT-3, GPT-3 c'est un nom un peu rigolo pour les français mais c'est juste un bot.
J'ai compris.
Ça y est. C'est une IA de génération de contenu, tu lui donnes juste un petit brief, tu lui dis bah là j'aimerais que tu me sortes une petite histoire à propos de ça, tu lui donnes un peu de contexte.
Ah OK, et ça fait un truc long.
Et ouais, et ça te sort un truc, mais par contre ça peut aussi répondre à un texte d'entrée en fait, si on t'envoie, enfin si tu lui dis réponds à ce mail et tu lui mets le mail en question.
Ah, il connaît le contexte. Bah, c'est bien, sûr, ça existe, mais est-ce que c'est
quelle est votre réponse? Est-ce que vous pensez que ça existe? Parce que je précise que on ne peut pas vérifier ce qui est envoyé, ça l'envoie tout seul.
Ça deux fois, soit c'est un brain de nouveau.
Parce que.
C'est Jean-Pierre Foucault, là, tu sais, genre, c'est votre dernier mot, c'est sûr.
Est-ce que c'est votre dernier mot?
C'est sûr.
Ça existe. Enfin, c'est juste que si ça existe pas, vous allez mal chercher.
C'est pour ça que je précise.
Oui, ça existe, allez.
Ça existe.
Eh bien. non seulement ça existe, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est nous qui l'avons fait dans l'équipe plutôt, avec Thiel, notre développeur, pour notre boîte mail.
Incroyable.
Et il y a même une vidéo qui parle de ça, qui sort sur ma chaîne demain.
Mais oh, non, il est
magnifique
fort.
Ce teasing.
Il est fort. Est-ce qu'il y a une chasse au trésor?
Il est fort. Mais oh, wow. Je sais que le chat pensait que ça existait. Eh bien, pas encore. Mais demain,
coup,
oui.
Ça veut
le nom
dire
est vachement cool pour le coup.
Miel
fort en nom.
Ouais, c'est pas obligé de dire si tu veux pas trop teaser, mais ça veut dire que si par exemple le mail part, on a une OP à vous proposer, t'as un mail type qui répond parce qu'il y a le mot OP
avec le montant
en disant avec
le montant directement.
120 000 euros une vidéo.
Il y a un filtre quand même. Qui effectue à un moment pour ne pas créer des crises diplomatiques chaque jour, mais voilà.
Et c'est un truc pour temporiser ou vraiment t'es en mode oui je suis dispo jeudi.
C'est un truc qui répond vraiment automatiquement, mais attention, ça utilise justement GPT-3, donc ça tombe très très bien.
D'accord.
Et vous allez voir que ça ne me met pas dans des situations.
Ouais. Ah t'as eu des dingueries.
Génial.
Ouais.
Oui.
Oh yes.
Ça ne me met pas forcément.
Ouais, c'est drôle.
Voilà, dans des meilleures dispositions pour des liens sociaux finalement.
Non, parce que je comprenais pas parce que en fait donc pour l'émission tu m'as dit de venir et moi je suis arrivé hier.
C'est pour ça en fait. C'est ça.
C'est super.
Super.
Super super long. En
fait, oh oui, c'était une vanne. Putain.
C'était une blague. Ouais. Merci à tous.
Et sur le nom, je ne vous explique pas pourquoi ça s'appelle Mialbot. Vous le verrez demain.
Mi-code pour le mi.
Non.
Ah,
bon. pour finir, on m'a signalé un petit tweet sur avant de collab Forage Space Fox, mais jamais. Mais Forage est terminé.
Ouais. Non, on fait que
c'est
des collabs avec des entreprises vivantes.
Oui, c'est exactement. Désolé. Oui, c'est le. On peut conclure là-dessus d'ailleurs.
Ah
c'est
mais
que
faire des. De qui était le tweet?
Non, j'ai pas vu.
C'est Sony.
Alvatar. pourquoi pas si on se remotive, mais enfin pour Forage, mais c'est le truc qu'on peut clore pour ce sujet d'ailleurs, c'est que c'est, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est méga dur de faire ça, genre faire une marque de vêtements.
Non, c'est
tout le monde pense que c'est genre free money, le truc de base.
Non, en vrai si on parle vraiment économie, moi j'ai pas tiré 1 € de Spacewalk depuis que ça existe, alors que ça fait 3 ans. Vraiment, ce choix avant-hier, je me suis dit, ce serait bien un jour quand même que j'essaie quand même de prendre au moins 10 ou 20 balles. Donc un jour, ça viendra, j'espère. Mais en fait, à chaque fois, en fait, vraiment, le truc avec les vêtements, c'est que tu génères de l'argent, mais t'as tout de suite besoin de le réinjecter pour avoir du stock, etc. Et c'est sans fin.
Personne, si tu veux que... Je pense que les gens s'en rendent pas compte vraiment.
Ils s'en rendent pas compte.
C'est pas du tout. Vraiment, c'est
et
pas
les autres marques du tout genre galèrent aussi, hein. Vraiment.
Hein? Ouais.
Les autres marques.
Tous. Des youtubeurs.
Ouais, il y a d'autres youtubeurs, c'est le même truc.
Absolument.
Ils n'ont pas d'argent.
Ouais, de ouf. Non, ouais. Mais par contre, c'est un bon moyen d'expression. En tout cas, nous, dans notre terrain, on va dire l'espace et tout, exploration spatiale, c'est vraiment l'éclat. C'est une page blanche cool pour s'exprimer, pour faire des trucs marrants. Ouais. Donc, on s'amuse.
Vraiment, j'ai relancé le sujet d'ailleurs, mais.
Ouais, c'était vraiment une conclusion à la base. Ouais.
Oui.
C'est vrai. Ouais.
C'est la fin de ce petit jeu. Combien de bonnes réponses? Je pense qu'on a.
Alors quand ils m'ont pas écouté, le reste.
Ah oui, c'est vrai. Ça y est, susceptible.
Non. Je dis ça, je dis rien.
Non, mais on s'est trompé sur le museau aussi, non?
Sur le museau.
Sur le chien, là.
Du chien, non, mais.
J'en avais capté que c'était faux.
Au moins 3 erreurs. Okay. Prestation pas terrible,
ouais,
objectivement.
Pas ouf, c'est vrai.
Mais vous pouvez revenir.
Avec plaisir.
Il est agréable, mais il est honnête.
Et pour rebattre votre record, c'est déjà la fin de cette émission qui a duré. Merci infiniment d'être passé chez nous.
Merci beaucoup à vous.
Le bienvenu ici.
Merci.
Sur Twitch, tu te situes comment du coup si les gens ils veulent aller quelque part?
Ah non, mais faut pas. Je sais pas. Les envoyer les gens sur Twitch, ils vont être déçus. Hein. Ça reste quand même très très rare et mes chaînes secrètes sont secrètes par définition. Non mais c'est sur ma chaîne YouTube, donc chaîne de divertissement où du coup on fait des vidéos maintenant en groupe avec Yvan, Étienne et Thomas et c'est. Comme je te disais hors caméra tout à l'heure, je crois, c'est ou à toi Augustin, ouais. Je sais plus. Mais c'est l'arc de ma chaîne YouTube que je préfère, genre je m'amuse énormément et voilà.
Encore plus que la Redbox, donc ça veut dire que ça va être sympa quand même.
Ouais, pourtant j'ai un très bon souvenir de la Redbox, ouais. Hein, malgré les dramas que les gens adorent sur Twitter, mais j'ai un super souvenir quand même.
Mais d'ailleurs là-dessus, moi j'ai la dernière interview que j'ai vue, c'était avec Zach,
mm-hmm.
Et parce que peut-être qu'il y en a qui seront frustrés qu'on soit pas revenu sur tous les sujets autour de ça et tout. Si vous voulez aller voir l'interview.
Tout dit chez Zach.
Exactement. Il y aura tout. On se retrouve pour le coup la semaine prochaine à 19h pour une nouvelle émission. On n'oublie pas de follow cette chaîne Twitch si vous avez apprécié cette émission et faites-le maintenant, vous pouvez le faire, voilà, il y a un petit bouton. Hop. Merci beaucoup à nos invités, donc Maxime, Benjamin, on te retrouve sur ta chaîne YouTube et merci beaucoup à Martin Huntersinger qui est passé.
Moi j'ai pas d'actu donc.
Et Augustin. Si, si, mais c'est juste que comme t'es pas dans mon
script. Oui, oui, c'est vrai.
et merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, quoi. À très bientôt. Bye bye.